Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le SAV de la F1 pour cette cinquième édition des SAV d'or. Pour cette occasion, point de costard ou de cotillon, mais quatre garçons aux cheveux longs et aux caleçons propres que je vous prie d'accueillir comme il se doit sous un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir Ben, Gus Gus, Fab et Shinji.
Bonsoir.
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 Alors messieurs, comment allez-vous en ce début d'année 2014?
Déjà, bonne année à tous.
Oui, bonne année à tous.
Mais cette année sera maudite, moi je vous le dis.
Ah, c'est bien. Commence fort,
c'est bien. T'es optimiste, c'est bien.
Moi, je dis 2013, c'est trop mal fini pour que 2014 se passe bien.
Justement, faut être optimiste.
Mais non, je suis pessimiste.
Souviens-toi, on a donné un SAV d'or à l'espoir.
Oui, mais ça, c'était avant.
Mais il l'a reçu ou pas? Parce que j'ai pas l'impression qu'il en s'est rendu compte.
Alors, vous l'aurez compris, ce soir, ce sont les SAV d'or, hein, cette série. Bah, c'est l'année dernière, en 2013, une année riche, émouvante, une année dominée par Sébastien Vettel, donc un peu moins riche du coup et un peu moins émouvante que ce que j'ai véritablement dit. On va vous proposer une quinzaine de catégories ce soir, dont en toute fin d'émission un SAV d'or d'honneur, mais après le SAV d'or d'honneur, il y aura The Ultimate SAV d'or, l'ultime, le dernier, le SAV d'or pour lequel il n'y a pas encore de vainqueur, parce qu'il n'y a pas... Enfin oui, il y a eu un vote, on ne dira pas qui, mais il y a eu un vote. Mais... vous allez pouvoir retrouver en sidebar sur le site du SAV un petit module pour voter pour cette 15e et dernière catégorie dont nous dévoilerons le nom du vainqueur en toute fin d'émission. Et cette catégorie, c'est la catégorie suivante, le SAV d'or du transfert que même si Paco Rabanne nous l'avait annoncé, on n'aurait pas vraiment vu venir, récompensant le transfert le plus étonnant de la saison 2013. Et messieurs, est-ce que quelqu'un pourrait nous citer les nominés pour ce SAV d'or?
Je vais vous les donner, si je les retrouve dans ma grande liste.
Ben, ils sont en sidebar sur le site du SAV de la F1, SAVF1.fr.
Tu n'écoutes rien.
Non, les six nominés auxquels donc vous pourrez choisir donc sont le retour de Kimi Raikkonen chez Ferrari, la montée en grade de Daniil Kvyat chez Toro Rosso, la titularisation de Pastor Maldonado chez Lotus, le retour de Nico Hülkenberg chez Force India, la promotion de Kevin Magnussen chez McLaren et le transfert d'Adrian Sutil chez Sauber.
Et le vainqueur est la suite dans quelques heures.
Oui.
Voilà, ça fait peur, quelques heures.
C'est ça. Le résultat sera donné demain.
C'est possible en plus.
Donc, messieurs, je vous propose de commencer par la première et ô combien périlleuse catégorie.
C'est toi qui as fait la programmation, je te rappelle.
Oui, mais j'ai dit que si vous aviez des modifications à y apporter, on pouvait. Donc, chacun après est conscient qu'il pouvait peut-être apporter des modifs. Donc, c'est à toi, Shinji, qui va nous la présenter, cette petite catégorie.
Oui, car, vous savez, les connasses, c'est important. Car oui, tel un pneu Cinturato flingué en deux tours, ma surprise fut la plus totale quand, faisant une simple recherche Google sur le mot Martine, hein, ça vous donne déjà l'idée du SAV d'or, je découvris l'effroyable vérité. Oui, cette idole des petites filles françaises, celle qui a bercé l'enfance de tant de jeunes filles, n'est en fait qu'une chaudasse droguée aux mœurs douteuses. Oui! Vous aviez une image de Martine, mais il faut le savoir. Désormais, c'est fini les aventures avec Patapouf et Moustache. Martine, aujourd'hui, c'est Martine carburo LSD, Martine n'a pas de culotte, Martine et son labo de crack, Martine aime le Beaujolais, Martine a cru voir son tonton Émile Louis, Martine et le Kamasutra, Martine et l'ours bourré, Martine en repérage pour Al-Qaïda, ou le fameux Martine lit le Necronomicon à son chien. Oui, mesdames et messieurs, voilà ce que l'on donne à lire à nos petites filles. Vous n'imaginez quand même pas que les candidats de télé-réalité avaient lu Proust, Hugo, Camus ou Rimbaud. Non, non, non. Elles ont lu Martine quand elles étaient gamines. Et on voit ce que ça a donné. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous voulez sauver l'avenir de la France. Ou d'un autre pays, mais à vrai dire, je m'en fous un peu. C'est donc, avec une grande honte, que les nominés pour le SAV d'or Martine, récompensant la meilleure histoire Pirelli parue en 2013, sont...
Pirelli s'éclate à Silverstone. Pirelli s'amuse à Barcelone avec Mercedes. Pirelli change ses pneus et Pirelli au tribunal de la FIA.
Je sors la petite enveloppe.
Ah, les enveloppes, c'est ça que j'ai oublié.
L'effet spéciaux à 10 000 euros.
Défonce l'enveloppe.
Ouais. Et donc, le SAV d'or Martine est attribué à Pirelli s'éclate à Silverstone.
C'est la première fois que Pirelli fait l'objet d'une récompense au cours des SAV d'or. Tourné en moins de 2 heures, le Grand Prix de Silverstone, fresque moderne sur fond de course automobile, a emballé la critique et beaucoup ont salué le grand spectacle offert par la marque italienne. Une récompense méritée.
Alors une franche victoire hein, pour Pirelli, c'est la Silverstone, plus de 60% des voix, largement devant Pirelli s'amuse à Barcelone avec Mercedes, 21%. Pirelli change ses pneus, pourtant c'est tout ce qu'on attendait, hein, 10%. Et Pirelli au tribunal de la FIA, à peine 8%.
On peut dire que Pirelli a fait l'unanimité pour une fois.
Il faut surtout dire, c'est qu'on a fait cette catégorie pour que Pirelli fasse l'unanimité. Surtout en se disant que si on faisait des catégories où il y avait de temps en temps Pirelli nominé, il y avait une forte chance que Pirelli reparte avec 15 trophées alors qu'il y a 15 catégories.
Non, mais le plus spectaculaire, forcément, hein, au terme de la saison, c'est vrai que des 4 choix possibles... Je suis plus étonné en effet par le fait que Pirelli change ses pneus soit troisième en fait. Mmh. Mais
là pour le coup voilà c'est Silverstone, c'est la course,
ouais.
C'est ce que vraiment tout le monde a vu. C'est vrai que Pirelli change ses pneus, c'est en backstage. C'est peut-être aussi pour ça que ça a moins marqué.
C'est vrai aussi.
Ouais, mais ça a aussi un impact sur la deuxième partie de saison. Enfin, la domination de Vettel est aussi en partie due à ce changement de pneu. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a eu des changements au niveau performance dans d'autres équipes. On regarde Sauber, je pense que sur 57 points, il y en a 53 qui sont marqués après le changement de pneu. Donc, c'est pas anodin comme événement. Mais bon, enfin, aucun n'est en soi anodin. Donc.
Bah, à vrai dire, je m'en fous un peu, cette catégorie.
Non, tu peux pas te foutre de Pirelli après toute l'année qu'on a eu autour Pirelli.
Oui, mais il a fait, mais.
On en a parlé jusqu'au dégoût. On a même fait un SAV 0% Pirelli, puis un SAV 100% Pirelli.
Mais comme tu l'as dit, on en a parlé jusqu'au dégoût.
Oui.
et même jusqu'encore, il y a quelques semaines avec les essais à Bahreïn, on en parle et je pense qu'on en parlera encore l'année prochaine s'il y a des problèmes ou même si les pneus sont trop conservateurs, on leur fera la remarque. Donc voilà, j'ai vraiment rien à dire sur Pirelli ce soir. Je suis désolé, Pirelli. Si jamais vous avez des places pour Monza cette année, ça nous intéresse. Mais sinon, non, je suis content pour vous que vous ayez ce SAV d'or qui était prévu, de toute façon, donc voilà.
Et j'invite tous les gens à faire une recherche avec le mot-clé Martin et à regarder sur Google Images.
D'ailleurs, t'as été un peu long, je trouve, je te dis.
Oui, bon, c'est vrai, oui.
Ouais, je me suis fait chier à me chronométrer sur chacun de mes jours pour être sûr que ça tienne.
Ils se connaissent même pas.
Donc, messieurs, tout le monde a fait le tour sur cette catégorie.
Je crois que ça fait plusieurs mois et un an complet qu'on fait le tour autour Pirelli, donc.
C'est ça, il suffit de fouiller dans les archives.
Pirelli fait rarement un tour complet. Donc là, qu'on ait réussi à faire un tour avec Pirelli, c'est bien. Bravo.
Ils sont endurants, ces Pirelli, finalement.
Je peux pas imaginer. Et donc, messieurs, la deuxième catégorie, c'est Ben qui va nous la présenter.
Effectivement. Et vous savez, parler, c'est important. Et ce n'est pas l'équipe du SAV qui va dire le contraire, et surtout pas Dino. Parler, c'est bien, mais se comprendre, c'est mieux. Et c'est encore plus vrai dans un couple si vous voulez faire des économies de vaisselle. Bien que l'incompréhension puisse parfois donner lieu à quelques envolées lyriques du plus bel effet. En Formule 1 aussi, les noms d'oiseaux ou de légumes sont sortis à l'occasion. Et afin d'enrichir votre vocabulaire, voici une petite liste d'insultes ou expression certifiée 100% bio. Alors, histoire de varier les plaisirs lorsque vous voulez traiter quelqu'un d'idiot, n'hésitez pas à faire usage de mots tels que courge, patate ou encore cornichon. Ce qui me laisse penser que l'intitulé d'un futur SAV d'or n'est peut-être pas très judicieux, mais passons. L'expression « être bête comme chou » peut également être utilisée pour signifier le manque d'intelligence d'un collègue. Si un pilote se trouve énervé par un autre, il pourra l'exprimer en disant « il me court sur le haricot » et si cet énervement atteint un certain stade, il pourra lui envoyer une châtaigne en pleine poire. Quant au célèbre concombre lancé par Sébastien Vettel en Verne-Arène Kartikeyan l'an dernier, il signifie tout simplement saut. Enfin bref, les nominés pour le SAV d'or Chérie, faut qu'on parle, récompensant le couple qui n'ira même pas jusqu'aux noces sont
Vettel Weber pour dernier tango à Sepang, Raikkonen Grosjean pour dégage de mon podium, on est déjà trois, Raikkonen Perez pour Fast and Furious Monaco Drift et Button Perez pour Bahreïn a déclaré.
Alors, le gagnant pour ce SAV d'or, chérie, il faut qu'on parle, sont Vettel et Weber pour dernier tango à Sepang.
C'est le troisième SAV d'or pour le duo Vettel-Weber après le SAV d'or du Club 153 et le SAV d'or du paillasson qui ne s'est pas laissé marcher dessus, tous les deux reçus en 2010. La retraite de Marc Weber mettra fin à ce triomphal tandem qui n'a rien à envier à ses glorieux anciens tels que Prost, Senna, Schumacher-Barrichello ou encore Laurel et Hardy.
une récompense méritée.
J'ai bien de voir sur le site de l'équipe que la voix off était reconduite pour une saison de plus. Voilà, son contrat vient d'être signé. Bravo la voix off.
Alors le palmarès complet, donc c'est Vettel Weber qui remporte la mise. En deuxième position, on retrouve Raikkonen Grosjean pour dégage de mon podium. On est déjà trois. Button Perez pour Bahreïn a déclaré, pardon. Et puis on retrouve encore Raikkonen et Perez pour Fast and Furious Monaco Drift en dernière position. Ex aequo d'ailleurs avec Button Perez.
Un classique.
Oui, comme c'est justement remarqué la voix off. Oui, c'est leur troisième SAV d'or. C'est
oui.
Un couple. Qu'on retiendra.
Qu'on retiendra, oui.
Ah, et puisqu'il gagne avec près de 50% des votes, pour info. Écrasante victoire.
Je suis un peu déçu, encore une fois, de Raikkonen Perez. c'était quand même un...
C'est vrai que oui.
Bon, c'était quand même un beau shérif au qu'on parle, quoi. Ils en sont presque venus aux mains.
Ouais, mais bon, voilà, ce pauvre Marc, attendant le podium. Multi-21, Seb. Multi-21.
Ouais, et puis c'est celui dont on a le plus parlé tout au long de la saison, donc c'est pas forcément surprenant que ce soit ce choix-là qui soit plébiscité.
Après, est-ce qu'on en a vraiment parlé au fil de la saison? Enfin, j'ai quand même l'impression qu'après la Malaisie, on en a plus vraiment beaucoup parlé. Il y a eu la Malaisie, même globalement depuis quelques années, il y a quelques incidents sporadiques entre les deux, mais sinon en dehors de ça, il y a rien d'autre. Voilà, c'est pour moi, je me sens pas que j'ai voté pour ça. J'ai dû voter pour Button Perez parce que là, pour le coup, c'était quelque chose de nouveau, notamment du côté de Button qui s'est montré un peu agressif. La Vettel Weber, bah, c'est en 2013 comme en 2012, comme en 2011. C'est en 2011, je crois. Non, c'est en 2010 où il y a le Grand Prix de Turquie. Ouais. Où ils s'envoient tous les deux. Enfin, ils s'envoient mutuellement dans le mur. Voilà, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment nouveau.
Non, mais comme tu dis, c'est marquant parce que c'est à peu près la seule fois de la saison où il y a eu match quoi entre les deux. Non, mais quand on y réfléchit bien, derrière,
il y a pas eu match.
Il y a pas eu match du tout quoi. Vettel a pris l'avantage assez nettement.
Vettel et les autres.
Voilà, non, mais bon, c'est aussi très révélateur de leur relation. Ça n'évolue pas, c'est la même chose et puis finalement, mais ça fait toujours vendre quand même quoi. C'est toujours très vendeur comme couple.
Il faut quand même rappeler aussi qu'en fin de saison, Weber a tenu des déclarations, on va dire élogieuses, à la fois envers son ami Fernando et vers son ancien coéquipier Sébastien. En même temps, j'ai envie de dire, tout son intérêt à Weber, c'est de dire que Vettel est le plus grand pilote qu'il ait jamais eu de tous les temps de l'histoire.
Bah oui.
Parce que voilà, il avait déclaré que pour lui, Vettel et Alonso étaient dans une autre catégorie de pilotes, mettant quelques cachous au passage à Schumacher et à Hamilton, voilà. Donc ça s'est fini bien.
Ça s'est fini quoi.
Ouais, ça c'est.
Ça.
Je me demandais qui allait la faire. Ben voilà. Messieurs, d'autres. Est-ce que vous avez voté pour quoi vous?
Moi, je crois que j'avais voté pour ça quand même parce que c'est ce qui m'avait le plus marqué. Puis comme j'avais défendu Beck et Kimi à Monaco, bon, voilà.
Belle connerie d'ailleurs.
Moi, j'avais reconnaître Perez, hein, le grand spectacle.
C'est vrai que c'était beau. Ça a commencé en Chine.
Oui.
Au virage, je sais même pas, 4.
Il y a plein de virages. Hein.
Oui. Ouais, en Chine, il y a plein de virages en effet.
Mais voilà, c'est d'ailleurs une très belle manœuvre de la part de Kimi Raikkonen, hein, qui s'est bien récupéré en allant sur l'herbe, en allant dans tous les sens. Et après, ça, le chef-d'œuvre, c'est Monaco.
Ah oui, c'était superbe.
Mais c'est bizarre parce que je trouve que sur les deux derniers Grands Prix, il y a eu beaucoup moins d'électricité entre les deux pilotes.
Oui.
Je trouve que à la fois Perez s'était un peu calmé et puis j'ai envie de dire qu'Kimi Raikkonen s'est adroitement retiré du chemin de Sergio Perez.
Il a fait le dos.
C'est tout à son honneur. Ouais. Donc messieurs, ça nous emmène vers une troisième catégorie tout cela.
Oui.
Une catégorie qui nous est présentée par Gus Gus.
Oui, car vous savez, la radio, c'est important. Au vu de la complexité de la F1 moderne, il devient impensable de conduire une monoplace sans communication radio. Écart, réglage sur le volant, stratégie, tout cela ne peut être géré efficacement par un homme en plein effort physique. Et la relation avec l'ingénieur de course, premier interlocuteur du pilote, devient un facteur primordial à la performance. Ces échanges, précautionneusement épiés par tous et potentiellement diffusables à la télévision, doivent par conséquent allier concision et mystère, afin de bien mettre ses secrets à l'abri des oreilles indiscrètes. Mais le petit monde aseptisé de la Formule 1 connaît des sursauts de communication mal maîtrisés, où les interlocuteurs sortent de leur gond, où les processus minutieusement mis en place volent en éclats, où l'imprévu amène des réactions disproportionnées. Des moments rares, donc précieux, que nous avons décidé de récompenser avec la catégorie suivante. Les nominés pour le SAV d'or du message radio qui n'aurait pas été approuvé par Radio Londres, récompensant la communication qui n'est pas passée d'aperçu, sont...
Fernando Alonso pour « Vous êtes vraiment des génies » à l'intention des stratèges de Ferrari en Italie. Alan Perman pour « Kimi, dégage de cette putain de trajectoire » à l'intention de Kimi Raikkonen en Inde. Christian Horner pour « Allez, c'est stupide Seb » à l'intention de Sébastien Vettel en Malaisie. Philippe Massa pour c'est... « Oh putain, t'aurais dû la faire toi, Gus Gus. Vas-y Gus Gus, fais-la parce que tu l'as fait trop bien. »
Ah, Philippe Massa pour « C'est inacceptable, c'est juste incroyable, incroyable la FIA, incroyable, inacceptable !»
à l'intention des commissaires au Brésil. Lewis Hamilton pour « Et maintenant, je suis doublé par une Williams » à l'intention de Peter Bonington, son ingénieur de course en Espagne. Et enfin Nico Rosberg pour « Rappelez-vous de celle-là » à l'intention du muret des stands de Mercedes en Malaisie.
Petite enveloppe. Et le vainqueur du SAV d'or du message radio qui n'aurait pas été approuvé par Radio Londres est Alan Perman pour « Kimi, dégage de cette putain de trajectoire » à l'intention de Kimi Raikkonen en Inde.
Alan Perman est la révélation radiophonique de cette saison 2013 et c'est tout à fait logiquement qu'il remporte ce SAV d'or qui couronne une prestation de haute volée, tant sur le muret des stands qu'au micro lors du Grand Prix de Corée du Sud. Il succède dans la légende au grand Rob Smedley, primé en 2010 pour son rôle dans la radio Grésillera trois fois. Une récompense méritée.
Ouais, là encore, pas photo sur le palmarès, hein, parce que Alan Perman sort vainqueur avec quasiment 50% des votes, hein, 94 ouais. Votes. Suit derrière Felipe Massa, bon, je vais pas refaire l'interprétation à chaque fois, avec 29 votes.
Oh, non, Alonso... Pour Massa, s'il te plaît, vas-y, fais-le.
Ah, sérieux. C'est inacceptable, c'est juste incroyable, incroyable la FIA, incroyable, inacceptable. Ah, c'est parce que j'aime bien m'énerver. Je le tiens bien, là. Ouais. Je le tiens bien, l'énervement.
C'est le mec qui fait répéter 10 fois, il dit, la première, c'était la bonne.
Ouais. Et donc après 27 votes pour Alonso, 26 pour Hamilton, 10 pour Nico Rosberg et seulement 3 pour Christian Horner.
C'est un plébiscite.
Ah oui. C'est-à-dire que des messages radio avec des bips parce que fallait bien biper le fameux mot, hein. Vous savez que les Anglais, hein, ça arrive pas tous les jours. Voilà, c'était.
Mais ça se trouve, Alan Perman, il a juste dit « Kimi, dégage de cette bip de trajectoire !»
De cette bip de trajectoire.
C'est ce qu'on dit, ça a été rajouté.
Il est fort.
Mais non. Ça se trouve, Alan Perman saute au bip.
Alan Perman saute au bip, très bien.
Après connasse, on continue, c'est bien. Très bien. C'est un début d'émission en fanfare.
Il y a un niveau dans cette émission quand même. Hein.
Non mais oui, bah c'est vrai qu'en plus c'est un des derniers, donc il a la fraîcheur pour lui, mais c'est sûr que de tous, bon, c'est certainement celui qui symbolise peut-être le plus de choses, quoi, dans cette saison. Et derrière tout ça, il y a aussi une grande popularité de Raikkonen qui fait que ce genre de message ne passe pas inaperçu. Pourtant après la concurrence était rude quand même, hein. C'était pas les autres sont pas ridicules, les trois qui ouais. Suivent sont pas forcément ridicules au nombre de voix, mais c'est vrai que
le jury a bien fait son boulot.
Voilà.
Oui.
C'est vrai que là c'est que il y a le fait que Kimi finit pas la saison aussi qui à mon avis joue dans le fait que les gens votent pour ce choix-là effectivement.
Oui, parce que c'est peut-être aussi un peu vu comme une explication de cette fin de saison, de cette dégradation. C'est voilà, c'est un peu le grand symbole de la déconfiture des relations entre Kimi Raikkonen et Lotus. C'est cette phrase lâchée par Alan Perman. En même temps, il y a le fait que, enfin voilà, le contexte, la rivalité avec Grosjean à qui on demande clairement à Raikkonen de laisser passer Grosjean. Voilà, c'est la fin d'une époque quasiment chez Lotus.
Je pense que si Alonso avait décidé de quitter Ferrari à la fin de saison, peut-être que le « Vous êtes vraiment des génies » aurait eu plus de votes, aurait peut-être même gagné aussi. Donc c'est aussi une question de contexte.
Oui. Vous aviez voté pour quoi, vous ?
Bah moi, oui, pour Alan Perman.
Moi, j'ai voté pour celui-là aussi, ouais.
Moi j'ai voté pour et maintenant je suis doublé par une Williams.
Mais oui, c'est vrai que
sauf que j'ai voté pour ça. Mais parce que moi j'y croyais pas beaucoup quand on a décidé de mettre dans les nominés, j'y croyais pas des masses. Et en fait en regardant le résumé sur Canal+, on retrouve ce passage là et mais c'est juste fantastique quoi, c'est la manière dont il le lit, le ton, même en anglais, t'as même pas besoin d'avoir la traduction, tu comprends la lassitude du mec qu'on a juste marre qui
veut bah oui.
Bah, ça va, ça a fini quatrième mais dans un mouchoir de poche avec le deuxième et troisième. Donc,
oui, mais quatrième.
Oui, bon.
Ouais, moi, j'ai voté Perman aussi. Enfin, c'est une belle démonstration publique de la rupture entre Lotus et Raikkonen.
Mm. Oui, parce qu'il y a la réponse de Raikkonen aussi derrière, qui est du même acabit. Donc,
c'est vrai.
C'est vrai qu'on aura pu le nominer à part, tu vois. Pour vraiment avoir un match, tu vois, entre Alan Perman ou Kimi Raikkonen. Pour enfin pouvoir aller voir les mecs en disant, bon, écoute, Kimi, tu vois, c'est le champion. Même là, il te bat. Bon, en Formule 1, il n'y avait pas match, mais là, il te bat.
À noter aussi, parce que Adelin fait bien de le demander sur le chat, on ne l'a pas précisé, le nombre de votants en tout. Vous avez été, il y a eu 189 votes, ce qui bat notre record de l'an dernier qui était à 162.
Oui. Mm. Bah maintenant je commence à douter des chiffres.
Non, l'année dernière c'était pas 150, l'année dernière c'était 154 oui. Pour être précis.
Mais apparemment vous continuez à voter derrière. En fait,
Vous pouvez encore changer le palmarès de l'année dernière.
Et donc la catégorie suivante, bah c'est moi qui vais l'annoncer. J'adore me moto introduire.
oui, auto introduis-toi, vas-y.
J'adore m'annoncer, on va dire.
Voilà, oui, ouais.
Plutôt.
C'est ça.
Alors faut juste que je repère la catégorie que c'est laquelle. Cette émission n'est pas du tout préparée. Ah oui.
Parle pour toi.
Alors, la marmotte, vous savez, la marmotte, c'est important. En effet, riche en magnésium, la marmotte est conseillée pour lutter contre le stress ainsi que l'anxiété et réduirait même, selon certaines études, le risque d'infarctus du myocarde et d'AVC tout en ayant un effet préventif face au développement de l'ostéoporose chez la femme. La marmotte permet également de protéger l'organisme contre le mauvais cholestérol et réduit, grâce à la vitamine B3, l'encrassement des artères. Consommer 2 carrés de marmotte par jour entraînerait ainsi une baisse de la tension artérielle salvatrice. Mais la marmotte possède également, et avant tout, une capacité antioxydante 2 à 3 fois plus élevée que celle du thé ou du vin. Vous vous rendez compte? Alors, sans plus attendre, rendez-vous dans le supermarché le plus proche de chez vous pour dévaliser le rayon des rongeurs avant de découvrir le lauréat du SAV d'or.
Et après, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, récompensant la personne qu'on a du mal à croire, même en faisant des efforts.
Et les nommés sont...
Rose Brown, déclarant qu'il n'y avait rien de secret dans les essais Pirelli de Barcelone. Kimi Raikkonen, malade au moment d'affronter la presse, le jeudi avant le Grand Prix de Belgique. Pastor Maldonado, soupçonnant le sabotage de sa Williams au Grand Prix des États-Unis. Sébastien Vettel, regrettant son dépassement sur Marc Weber au Grand Prix de Malaisie.
Et le vainqueur est... Sébastien Vettel, regrettant son dépassement sur Marc Weber au Grand Prix de Malaisie.
Non.
Sébastien Vettel remporte un 5e SAV d'or en autant d'éditions, là encore grâce à son duo sans faille avec Marc Weber. Sa déclaration à la suite du Grand Prix de Malaisie restera comme un moment d'anthologie, une sorte d'Everest de la mauvaise foi qu'il a gravi à main nue et sans assistance respiratoire. Une récompense méritée.
Là encore une fois, autant dire qu'il n'y a pas eu match. Je crois même qu'il me semble que c'est la 2e catégorie la moins disputée de ce palmarès, hein, puisque Sébastien Vettel l'a emporté avec 58,2% des voix devant Kimi Raikkonen. Pardon ?
C'est très bien trié ces catégories. On commence par des catégories. Ouh, c'est.
Et nous ne connaissons pas le résultat.
Oui. Ouais. Enfin, j'ai pas bien entendu l'enveloppe, hein, personnellement.
Sache qu'en Picardie, dans les caves, il n'y a pas d'enveloppe.
Il n'y a plus d'enveloppe.
Il y a les tuyaux qui relient les toilettes, mais il n'y a pas d'enveloppe. Je fais avec ce que je peux, monsieur. Et donc, ça devant Kimi Raikkonen, qui était souffrant au moment d'affronter la presse le jeudi avant le Grand Prix Belgique avec 15,34% des voix, devant Rose Brown, c'était un peu serré quand même derrière, avec 13,76% des voix, et Pastor Maldonado, 12,7% des voix, une catégorie que personnellement je pensais un peu plus disputée, et qui en fait non.
Bah ça a été disputé entre le 2e, 3e et 4e en fait.
Mais en fait c'est un peu l'image de cette saison. C'est très loin devant, t'avais tel.
Et après c'est disputé.
Ouais. Bah, faut dire que c'est quand même certainement un événement aussi qui conditionne tout ce qui s'est passé par la suite, notamment quand il se fait siffler, quand il se fait huer. C'est aussi, on peut pas le nier, même si on le regrette, c'est aussi à cause de ça, parce que au sortir du Grand Prix de Malaisie, il semble regretter. Il ne savait pas ce qu'il avait fait. Et trois semaines plus tard en Chine, il assassine Weber. Il dit de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est aussi marquant dans l'année de Vettel et dans ce qui s'en est suivi, quoi.
Mais est-ce que tu penses du coup que s'il avait directement tenu le discours qu'il a tenu quelques semaines plus tard en Chine, on l'aurait pas autant sifflé? Est-ce que c'est plus le geste?
Certainement, certainement. C'est plus la situation que ses propres déclarations à lui. Hein. Je pense pas que ce soit le fait qu'il soit revenu sur ses déclarations. Hein. Je pense, évidemment, c'est marquant, mais je veux dire, pour la catégorie, évidemment, ça fait que là, pour le coup, plus que les autres, ça colle bien à l'intitulé. Mais je pense qu'il aurait été sifflé quand même.
Je pense qu'il aurait été sifflé moins.
Ah, est-ce que c'est pas tant ça que sa domination, donc.
Ouais, parce que la domination, c'est pas que cette année, quoi.
C'est un tout.
Ouais, mais il y a peut-être un côté lassitude.
Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non seulement les gens voyaient Vettel dominer et avaient l'impression qu'il dominait de façon un peu illégitime parce qu'il avait la meilleure voiture, et une voiture qui elle-même, par moment, frôlait un peu l'illégalité. Et là, c'était la goutte.
Plus, il en a rien à branler de son coéquipier. Voilà, waouh.
Même de pas respecter son équipe, de pas respecter son coéquipier et de faire ce qu'il veut et sa forte. Donc je pense que ça a plus sanctionné, et c'est venu vraiment de sanctionner un ensemble de choses, et ça a en quelque sorte peut-être radicalisé ceux qui étaient déjà ceux qui n'osaient pas siffler mais qui auraient quand même sifflé Vettel l'année dernière, par exemple.
Oui, c'est sûr.
Ceux qui font des commentaires sur les sites et les forums. Vettel, bravo, je comprends.
Les observateurs. Je crois que j'avais voté pour ça. Je crois que c'est une des rares catégories où j'ai un gagnant.
L'année prochaine, il faudra qu'on fasse ça. Il faudra qu'on vote chacun de notre côté. On note le truc. On met le mec qui est le plus proche du palmarès. Et l'année suivante, c'est le mec qui gagne, qui fait tous les sketchs. Donc, messieurs, on a fait le tour de cette catégorie.
Oui.
Apparemment, oui. Donc, je vais passer à la catégorie suivante. Fab, c'est à toi.
Oui. Vous savez, passer, c'est important. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. C'est par ces mots que le grand penseur Florent Pagny avait décrit ce moment où, bien qu'engoncé dans le carcan de l'individualisme, bien que voûté par le poids des contraintes sociales, bien qu'acculé par le regard des autres, l'homme pouvait passer, et puis rien. Les nommés pour le SAV d'or, merci quand même d'être passé, hein, récompensant la personne qui a vu de la lumière, est entrée, puis finalement s'est barré sans rien dire, sont...
David Ward, candidat éphémère à la présidence de la FIA. Luis Razia, premier pilote engagé, puis remplacé sans avoir roulé une seule seconde. Heikki Kovalainen, pour son intérim au volant de la Lotus E21. Lewis Hamilton, pour son arrêt au stand chez McLaren en Malaisie.
Alors, la petite enveloppe. Et le vainqueur du SAV d'or. Merci quand même d'être passé, hein. Et Lewis Hamilton, pour son arrêt au stand chez McLaren en Malaisie.
C'est le sixième SAV d'or déjà reçu par Lewis Hamilton au cours de sa carrière. Cette nouvelle récompense est d'autant plus étonnante qu'il ne faisait pas forcément figure de favori dans cette catégorie. Son remake de l'arrêt au stand de Jenson Button chez Red Bull en 2011 a séduit la critique et les votants. Et un SAV d'or qu'il dédie bien sûr à Dieu, à sa famille et une récompense méritée.
Alors là, c'est que la voix off était prolongée pour 2 ans.
Ah bah, il sera content d'apprendre qu'il a un travail. oui, donc là c'est le plébiscite de ces SAV d'or. C'est 115 voix quand même sur 189 devant Luis Razia, 40 votes quand même. Et Heikki Kovalainen, 24 votes, et David Ward, hein, qui a eu plus de votes, hein, quand même, que lors du congrès de la FIA, avec 10 votes. Voilà.
Ah, 10 de plus, c'est déjà bien.
Très déçu quand même par les votes, finalement, parce que à mon sens, c'est quand même une image assez anecdotique cette année. Voilà, ça a duré 3 secondes, on en a parlé sur le moment. Par contre, ça, il y a pas d'avant, il y a pas d'après, quoi. Enfin, c'est juste une image.
Ce qui était étonnant, c'est que quand c'est arrivé, ça a fait marrer tout le monde. voilà, forcément, il s'arrête chez McLaren.
Bah, ça a même c'est fait une évidence. Marrer Sapine.
Ça a fait marrer tout le monde, sauf une personne, lui. C'est-à-dire qu'après, non, c'était pas drôle. Si.
Et quel pisse froid, Lewis. Ouais, ça, je suis assez d'accord avec Gus Gus. C'est vrai que c'est anecdotique, là où quand même on a... moi, je crois que j'ai voté pour David Ward, parce que c'est quand même... effectivement, c'est le mec...
Donc,
voilà, pour le coup, c'est le mec qui est véritablement passé.
Qu'on connaissait pas.
Qu'on connaissait pas.
Qui a fait Tana, puis il est reparti, c'est pareil. Oui.
Et on va l'oublier, c'est le pire. C'est étonnant. Après, j'ai une petite pensée pour Luis Radia.
Oui, bah moi j'avais pris Luis Radia. C'est le type qui a quand même touché du doigt et non. Et voilà.
Il est même pas entré lui en fait.
Et voilà, il a fait la main sur la poignée de porte et non, il avait pas la clé quoi.
Il a roulé pendant les essais privés ou pas?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Oui.
Non. Non, ils avaient mis Chilton quasiment jour pour jour. Ils confirmaient Chilton le lendemain. Et c'est ce qu'ils avaient commencé à dire. Attendez, Chilton, il y a comme deux semaines d'essai qu'il fait. C'est quand même le rookie le mieux préparé de l'histoire, Chilton. Il a quand même eu quasiment le droit à une séance d'essai hivernale, rien pour lui.
Mais Radia, il était, enfin, à Barcelone, c'est la première semaine à Barcelone, il était là. Il était en combinaison, il avait son casque, il circulait de temps en temps dans le paddock, mais il est pas monté dans la voiture. Mais moi j'avais voté pour David Ward aussi, donc parce que effectivement c'est quand même le type qui est arrivé en criant haut et fort qu'il fallait quelqu'un pour que la démocratie fonctionne au sein de la FIA pour être face à Jean Todt, et qui finalement est parti sur la pointe des pieds. En gros,
on a un tiers des votes pour David Ward.
Oui, c'est
vrai.
Oui.
D'accord. Mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que ce garçon a la catégorie était truquée. Elle était destinée à un mec que personne ne connaît. Et en fait, comme personne ne le connaît, bah personne n'a voté pour lui.
Oui.
Mais moi, c'est vrai que par Lewis, même l'image, moi, j'avais complètement oublié qu'il s'était gouré de stand, quoi. Enfin,
bah, comme tu l'as dit, voilà, ça s'est passé, on s'est marré sur le coup, puis après...
Il aura fallu que Canal+ le mette dans la rétrospective pour qu'on s'en rappelle, quoi.
Ouais.
Enfin, je suis content. Quand Lewis gagne un truc, je suis content.
Profites-en, hein, c'est pas souvent.
Tu vois, c'est. D'ailleurs, ça se sent que t'étais content. C'est voilà, même dans le petit dans la petite voix off, on sent que tu débordes de joie. C'est...
la voix
quoi
off de.
La voix off serait Fab.
Quelle voix off? Non, mais de quoi tu parles?
De quoi tu parles?
C'est Philippe Dana.
Donc, messieurs, on passe à la catégorie suivante.
Oui.
Et vous l'aurez remarqué, on a fait un tour de table.
Oui.
On va devoir revenir vers qui nous l'a promis, hein. Plus quoi l'émission allait s'enfoncer dans la nuit, plus il deviendrait soft.
Oui, ça va en plus. Parce que vous savez, les traductions pourries, c'est important. Car nous allons bientôt fêter un premier anniversaire. Le premier anniversaire du petit mot dièse. Vous savez, ce terme censé remplacer le terme anglais hashtag. Un choix de terme complètement merdique. D'abord parce que les Québécois ont trouvé le beaucoup plus parlant mot clic. Peut-être beaucoup plus évident. Mais surtout parce que typographiquement, savoir que le symbole de Twitter, c'est ce qu'on appelle un croisillon et pas un dièse. C'est deux signes typographiques différents. C'est comme un accent grave et un accent aigu. C'est pas la même chose. Hein. Alors je vous rassure, ce n'est pas la première fois que la Commission Générale de Terminologie et de Néologie, quel joli nom, se tape des délires, notamment dans le domaine informatique, en nous spammant, pardon, je voulais dire en nous arrosant de termes à la con.
Oh.
Oui. oui, ça existe. Alors, on connaît les classiques courriel, hein, ou le bug, parce qu'en France, on préfère avoir des châtaigniers et des marrons plutôt que des insectes dans nos logiciels. Il y a aussi les hackers qui deviennent des fouineurs, alors que c'est faux. On sait tous que ce sont des tipiaques, des pirates. On regarde des films sur des disques numériques polyvalents, terme beaucoup plus sexy à dire que DVD, hein. Alors par bonheur, ils n'ont pas encore touché à Blu-ray, hein. Et
l'arrêt bleu.
L'arrêt bleu, pourquoi pas, hein. Mais bon, si vous êtes déjà passé au dématérialisé, peut-être que vous regardez un film à la demande sur votre boîtier multiservice Libre Révolution. Oui, boîtier multiservice. Plus étrange, la réalité virtuelle est à proscrire. Car oui, visiblement, le mot virtuel n'a pas eu ses papiers, hein, et préférait lui le mot réalité de synthèse. Alors, il y a quand même un contre-exemple, hein. parce que visiblement, webcam, c'était pas assez cool pour la commission. Oui, il ne faut pas dire une webcam, il faut dire une cybercaméra. Oui. Skynet et la NSA te regardent via une cybercaméra. Sur ce message d'espoir, reprenons notre diffusion par baladeur. Avec les nommés pour le SAV d'or du hashtag que Lotus peut vraiment être fier d'avoir collé sur sa voiture, récompensant le meilleur hashtag que Lotus ait utilisé lors d'un week-end de Grand Prix.
Where is Roscoe en Grande-Bretagne, Get Well Soon Kimi aux États-Unis, Mozzarella en Italie, Einzweig Drive en Allemagne.
Et le SAV d'or du hashtag que Lotus peut vraiment être fier d'avoir collé sur sa voiture est...
C'est violent.
Oui, c'est très violent. Je déchire les enveloppes.
C'est pas grave cette affaire.
Chaque minute dans le monde, une enveloppe meurt.
Where is Roscoe en Grande-Bretagne?
Signe des temps, c'est la première fois qu'un mot dièse ou hashtag reçoit un SAV d'or. Même si ce SAV d'or est passé plutôt inaperçu au moment du Grand Prix de Grande-Bretagne, les votants ont su saluer celui qui a été l'une des révélations de l'année et qui fait figure de favori pour le SAV d'or 30 millions d'amis. Une récompense qui a du chien.
Elle n'est pas méritée, celle-là.
Pourtant, c'est le chien de Lewis.
Alors là pour... les votes ont été beaucoup plus serrés, hein, puisqu'il y a seulement eu 5 votes d'écart entre Where is Roscoe et le deuxième qui était Get Well Soon Kimi aux États-Unis. C'est vrai qu'il est vite revenu. Mozzarella a fini seulement 3e avec 46 votes et Einzweig Drive, 20 votes seulement.
Ouais, alors là, déception.
Ouais, je sais que vous l'aimez bien, celui-là, Einzweig Drive.
Mais c'est parce que les gens n'ont pas regardé Rasta Rocket, c'est tout. C'est quand même le meilleur de tous, quoi. Le jeu de mots pourrave par excellence.
Bah, j'ai préféré Mozzarella dans
moi
cette
aussi,
catégorie.
J'ai une préférence pour Mozzarella.
Donc, ça nous en est 5 qui a voté pour Where is Roscoe, non? Vas-y, Ben, à vous. Désolé.
Bah, c'est-à-dire que je ne me souviens plus trop. Et sincèrement, c'est entre celui-là ou Get Well Soon Kimi. Et vu mon grand âge, j'ai un trou de mémoire sur le coup.
Mais de mémoire, c'est une catégorie qui est restée serrée jusqu'au bout, oui, même oui. Si dès le départ, on a eu Where is Roscoe qui était devant. J'ai pas souvenir d'avoir vu une seule fois Get Well Soon Kimi passer devant Where is Roscoe.
Bah, il est passé, si, en fait, il est passé il y a pas très long, enfin, peu de temps avant la clôture des votes, mais Where is Roscoe a repris le dessus très rapidement.
Je pense que le. Il a dû voter.
Oui, je pense. Il a fait voter sa famille aussi, je pense. non mais enfin globalement c'est une catégorie qui parle du hashtag, mais on peut aussi souligner l'excellente communication de Lotus oui. sur tous les supports et le fait que il y a eu beaucoup d'attachement à cette équipe jusqu'à provoquer des réactions très comment dire très spontané, très vive autour de sa situation. Et c'est aussi ce travail autour des médias qui a été qui a porté ses fruits quoi. Ses fruits, voilà, ses fruits.
Mais sur Twitter, je pense que c'est enfin clairement l'équipe qui gère le mieux l'outil en termes de communication, enfin. Que Mercedes a un petit peu essayé de sortir ses hashtags aussi en fin de saison, mais je sais pas si quelqu'un s'est en cité un seul.
Non, mais bon, la com de Mercedes, tu sais, déjà, ça a commencé mal avec cette fameuse histoire de voler, là.
Ouais, ouais.
Ah oui! De porte déroulante, vous vous souvenez?
C'est vrai. Ah, ça, on aurait dû mettre ça. Le fail de l'année.
Non, mais il y avait pas match, là, pour le coup.
Oh, tu sais, entre Ferrari et le volet roulant Mercedes, il y avait peut-être des choses à faire.
Ah, c'est vrai.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que on est donc sur une catégorie qui met en avant des hashtags, donc qui met en avant l'aspect réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est les deux devant, ça récompense quand même les deux pilotes et les deux histoires qui font un peu le buzz cette année en Formule 1. C'est Kimi Raikkonen qui fait énormément de buzz, de toute façon, depuis 2 ans, et c'est Roscoe le chien qui fait le buzz aussi en grande partie quand même grâce à Lewis qui nous le montre
oui.
Sous toutes les formes.
Et en plus, il n'est plus tout seul maintenant.
Oui.
Ouais. Je veux même pas savoir son nom.
T'appellerais un perroquet comme ça.
Voilà.
Apparemment.
Ah putain, c'est Coco. Ah.
On n'a pas dit son nom.
Il y a pas de raison que je sois le seul à souffrir. Vous saurez tous maintenant, le deuxième chat de Lewis, c'est Coco.
Apparemment, Lewis et Nicole se seraient rabibochés pendant le réveillon du Nouvel An. Donc on attend qu'il poste des photos de Nicole maintenant.
Bah, c'est-à-dire que Nicole a quand même été ravie qu'il lui dédie la victoire du Grand Prix de Hongrie. Hein. C'est quand même, pour une femme, c'est quand même le rêve.
Oui.
Moi, combien de femmes j'ai croisé dans ma vie qui me disaient « Ah là, le Grand Prix de Hongrie me fait rêver ». En fait, il n'y a que chimie. Il y a que Shiji qui, du côté des femmes, n'est pas d'accord.
Mais ah, sinon, ta gueule!
Le Grand Prix de Hongrie fait l'unanimité.
Si c'était pour sortir une saloperie pareille, fallait te taire.
Allez, Shiji, est-ce que c'est bon genre de me taire?
Non.
Malheureusement, voilà. Non.
Et donc, messieurs, je pense sérieusement que nous avons fait le tour de Roscoe.
Ça fait oui. Bizarre quand même ce soir. Hein.
Est-ce qu'il n'est pas très long de faire le tour de Roscoe. Et donc nous allons passer à la prochaine catégorie qui nous est présentée par Ben.
Exactement. Et vous savez, Aldo Machion, c'est important. Alors oui, certes, mais pourquoi me direz-vous? Eh bien simplement parce que c'est le nom du prochain SAV d'or récompensant la personnalité de la F1 qui nous a fait dire ça c'est la classe. Mais on a une minute pour la présenter, donc je vais un peu aller plus loin. La classe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, de 1987 à 1994, La Classe fut une émission télévisée présentée par Fabrice sur France 3. Elle a permis à de nombreux humoristes de se faire connaître. Alors, citons en vrac Gustave Parking, Vincent Lagaffe, Jean-Marie Bigard, Anne Roumanoff ou encore Muriel Robin. La Classe, ça désigne également une catégorie de sous-marins. La Classe Los Angeles désigne en effet la classe, une classe de sous-marins nucléaires de l'armée américaine, sous-marins construits entre 1976 et 1995. Toujours dans le domaine de la navigation, classe, c'est aussi le nom du port de Ravenne, en Italie. Et puis la classe, c'est aussi et surtout une attitude. Alors n'ayant pas le temps de rentrer dans des considérations sociologiques très approfondies, je vais tenter de faire simple et court. Vous voyez Nabila et Miley Cyrus, eh bien la classe, c'est tout le contraire. Et afin de boucler la boucle, la classe, c'est aussi le surnom donné à Aldo Machion. Voilà que tout fait sens à nouveau. Et les nominés pour le SAV d'or Aldo Machion récompensant la personnalité de la F1 qui nous a fait dire « ça c'est la classe » sont...
Felipe Massa pour avoir défendu Romain Grosjean après son dépassement pénalisé en Hongrie, Nico Rosberg parce qu'il n'a pas lavé son linge sale en public en Malaisie, Nico Hülkenberg pour sa fidélité à Sauber malgré l'absence de salaire, Sébastien Vettel pour son sang-froid face aux huées du public pendant une bonne partie de la saison, Luis Radia pour sa réaction après son éviction de Marussia, et Martin Whitmarsh pour avoir aidé Pérez à trouver un volant après avoir dû l'évincer pour promouvoir Kevin Magnussen.
Et le gagnant pour ce SAV d'or Aldo Machion est Felipe Massa pour avoir défendu Romain Grosjean après son dépassement pénalisé en Hongrie.
Quatrième SAV d'or de la carrière de Felipe Massa, le premier pour quelque chose de positif, après celui du pilote qui n'a pas l'air con et du truc dont on se rappellera dans 20 ans pour son accident en 2009 et aussi celui du pilote qui aurait mieux fait de regarder les courses à la télé en 2011. Sa défense de Romain Grosjean aura été plus convaincante que la plupart de ses défenses face à des adversaires en piste. Une récompense méritée.
Et donc Ben, la suite du palmarès?
Alors la suite du palmarès, c'est Nico Rosberg, parce qu'il n'a pas lavé son linge sale en public en Malaisie. Nico Hülkenberg est troisième pour sa fidélité à Sauber malgré l'absence de salaire. Sébastien Vettel, lui, est quatrième pour son sang-froid face aux huées du public pendant une bonne partie de la saison. Luis Radia pour sa réaction après son éviction de chez Marussia. Et,
c'est un scandale!
Et je ne citerai pas le dernier parce que j'en ai marre d'être trouvé. Martin Whitmarsh est dernier pour avoir aidé Pérez à trouver un volant après l'avoir dû l'évincer pour promouvoir Kevin Magnussen. Et c'est une victoire avec 44% des votes pour Felipe Massa.
Et une victoire pour quelque chose qui n'a pas eu lieu en piste. Enfin, une victoire pour une défaite quand même. Le mec s'est fait dépasser.
Oui.
Et puis, en plus, voilà, le seul et ça veut dire positif qu'il a, c'est pour un truc qu'il a fait en dehors de la piste. Mais arrête, Felipe.
Ah, lui, il était sur la piste.
Oui.
Lui, il était sur la piste.
Mais quand il a défendu Grosjean, non.
Oui.
Mais bon, j'ai pas envie de parler du vainqueur.
Oui, non, mais.
Il y a des choses qui m'énervent dans la vie. Bon, à la limite qu'il ne gagne pas, Sébastien. Je veux bien. Je comprends. J'accepte. Mais quand même, là, c'est la super classe. Merde! Vous faites chier, auditeur! Luis Radia aussi, c'est la super classe, merde! Vous faites n'importe quoi. On vous donne le droit de vote, on devrait l'interdire.
Mon Dieu.
Nous laissons Dino responsable de ses propos. Oui, c'est clair. Dans la loi.
Et le 7 heures, on fera une cérémonie. C'est moi qui décide qui gagne. Et vous verrez le palmarès, il sera génial.
Les dinos d'or.
Le retour du Dars autocritique. Une heure et demie tout seul.
Parce que c'est vous qui présenterez le palmarès. Attention, la voix, il fallait signer pour 3 ans maintenant, on me dit à la radio.
Oui,
3.
Non, mais déçu pour Luis Razia, je vais vraiment voter pour des losers, c'est assez terrible. mais c'est vrai qu'on en avait parlé beaucoup en début de saison, parce que c'était marquant, quoi. Ça, il avait été très, très sobre, puis très élogieux envers Bianchi qui avait pris sa place. Pas un mot, vraiment pas un mot négatif. Donc, moi j'avais voté pour lui, donc je suis vraiment déçu. Il est vraiment loin, quoi. Bon, après, je sais pas, c'est peut-être un événement marquant. Je sais pas, la popularité de Grosjean, je sais pas.
C'est compliqué à comprendre, oui, je trouve aussi. Ouais. Autant, moi j'ai voté pour Radia parce que Vettel, personnellement, je sais pas trop s'il avait le choix de le prendre autrement.
Alors virer.
Il aurait. T'en prie. Il aurait critiqué publiquement. Je sais pas trop si au bout d'un moment il aurait pas dû arrêter parce qu'il se serait fait taper sur les doigts par le management de Red Bull, quoi. Donc finalement la réaction qu'il a eue, c'est la seule qui était tenable dans le temps, quoi, de faire fi de décifler. Luis Radia, voilà. Du coup, comme il n'y avait pas d'écurie, ben il s'autogérait lui-même sa réaction, et là c'est vraiment très très classe, quoi. C'est...
Non, j'ai voté pour Vettel aussi, donc je serai encore là en 2014. Mais ça va,
on m'apprend que Ben est prolongé pour 3 saisons lui aussi.
Alors pour l'instant, vous avez Ben et la voix off.
Voilà.
Mais Gus Gus, ton contrat est chez l'avocat. On est en train d'explorer les différentes possibilités pour
tu vas recevoir une mise en demeure.
Faites vous n'avez pas mon adresse.
Attention.
Tu n'es même pas sûr de finir cette cérémonie. Oula, ah oui. Je veux pas dire, mais attention.
C'est qui a le bouton pour tout couper, je me rappelle plus.
C'est pas moi.
C'est moi, hein, je crois.
Bon. Ah merde. Eh ben, on m'apprend que Gus Gus est prolongé pour 19 saisons. Bravo, Gus.
Ah ouais, c'est fou, hein.
C'est dingue.
Les choses vont vite, hein, sur cette planète. Voilà, ça c'est est le gage qu'on a rien à dire sur cette catégorie. De plus.
Bah non, mais enfin, moi Vettel, j'avais parce que c'est non seulement il s'est pas, il est pas rentré dans l'art des gens qui le huaient en les critiquant, mais il s'est un peu moqué d'eux aussi avec humour, comme à Singapour. Donc effectivement, c'était la meilleure réaction possible. Voilà, ça servait à rien de rajouter l'huile sur le feu. Après, j'ai bien avoué que j'ai pas. J'ai souvenir effectivement que Luis Radia n'a pas balancé sur Marussia et après ça de manière assez philosophe, mais c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment cru qu'il prendrait le départ à Melbourne, Luis Radia, donc on a rapidement eu des doutes, donc ça m'a pas, c'est pas le fait, sa mise à pied, c'est pas un événement si marquant pour moi en tout cas, donc mais quand même étonné que ce soit Massa ici qui gagne. Quoi.
Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que dans cette catégorie, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un podium qui se dégage, peut-être, allez, si vraiment on prenait nos avis, je pense qu'on partait sur quelque chose genre Vettel, Radia, Massa, peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que le deuxième et le troisième, c'est quand même des personnages, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, qui sont plutôt des gens discrets.
Nico Rosberg, c'est vrai que c'est très par rapport à. C'est-à-dire qu'il y a eu ces deux situations avec une situation compliquée entre coéquipiers. Il y en a une, bon, bah, forcément, ça a été ce que ça a été. Et l'autre, finalement, ça n'a découlé sur rien. Il n'y a pas eu de scandale, rien, quoi.
Ce qui est étonnant dans la présence de Rosberg, c'est que Rosberg, autant il a été classe en Malaisie, autant par la suite, il n'a pas véritablement été super classe non plus avec Lewis Hamilton. On se rappelle, on l'a vu dans le résumé qui a été fait par Canal Plus il y a quelques semaines, qu'à un moment donné, on lui demande de laisser passer Lewis et il ne le laisse pas passer. Et moi, surtout, je me rappelle du Grand Prix de Corée, où son aileron lui pète sous les yeux. Et plutôt que de laisser passer son coéquipier qui est juste à côté de lui pour pas lui foutre en l'air le tour, il reste devant, ce que j'ai quand même trouvé très très limite. Donc, je suis étonné que ça soit un peu, certes, ça récompense l'action d'un pilote qui a été classe sur le moment-là de pas laver son lâche salon public, mais quand même globalement, ça m'aurait quand même fait chier qu'il remporte ce SAV d'or parce que je trouve que quand même sur l'ensemble de la saison, c'était pas non plus complètement mérité, tout comme à la limite Sébastien Vettel, c'était pas non plus mérité parce que il y a effectivement le Grand Prix de Malaisie. Pour moi, véritablement, celui qui le mérite le plus, c'est Radia, même si on peut quand même citer parce que Kev
en a parlé sur le chat, Martin Whitmarsh, qui est un peu l'invité de dernière minute dans cette catégorie, qu'on a sincèrement on a rajouté parce qu'il en fallait un sixième, mais qui quand même a été très très classe. C'est vrai que ouais. comme le dit Kev, c'est rare de voir un patron d'équipe qui après avoir viré son pilote essaye quand même de lui donner un coup de main.
Il l'a vraiment soutenu.
Ouais, c'est fin. Il le dit. Après, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est vrai ? Je suis plutôt sceptique, moi, par rapport à ça. Enfin, je sais pas, mais... je sais pas.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même malgré tout un risque, je pense, à vouloir dire derrière, oui, mais on va l'aider. Je pense que c'est justement parce qu'il y a aussi cette image derrière de dire, ouais, il communique, il nous raconte du baratin. Je pense sincèrement que s'il le dit, c'est qu'il est sincère. Après, ça n'engage que moi, mais je pense sincèrement qu'il était sincère. Après, qu'il l'ait, enfin, c'est pas véritablement aidé, mais c'est à vouloir le conseiller auprès d'autres équipes. Et on sait aussi que derrière, il y avait des enjeux. Même Pérez lui-même l'a dit que il y avait des enjeux qui dépassaient le simple cas de Pérez. Je pense que si Pérez avait fait une saison étincelante, il n'y aurait même pas eu de décision de la part de McLaren. Il a fait une saison demi-teinte, mais qui ne justifie pas son départ. Son départ étant justifié par le fait que tel mec ne veulent pas s'engager plus et visiblement c'est mal parti pour qu'ils s'engagent vraiment plus à l'avenir. D'autres remarques sur ce palmarès, sur ce SAV d'or? Visiblement non, donc nous allons passer à la prochaine catégorie. Voilà. Catégorie qui est présentée par Gus Gus.
Oui, car vous savez, les records c'est important. D'ailleurs, qui ne s'est jamais vu offrir, généralement par un parent plutôt éloigné et en manque d'inspiration, ce fameux best-seller qu'est le livre Guinness des records. Un ouvrage qui pèse à peu près 8 tonnes, qui attire formidablement bien la poussière et dont le destin semble être de pourrir dans un coin reculé de votre bibliothèque avant de se voir jeter lamentablement lors du déménagement suivant, faute de place. Une fin en eau de boudin qui ne devrait étonner personne quand on voit l'utilité de certains records. Avoir la plus longue moustache du monde ne sert à rien, si ce n'est à marcher en faisant très attention de ne pas la piétiner. Porter le plus grand nombre de t-shirts simultanément n'a pas grand intérêt, sauf si on veut se suicider par hyperthermie générale. Et posséder la plus grande raquette de tennis au monde n'est d'aucune utilité sans un cours adapté. Et pourtant, cette tendance au record à la noix a tout de même débarqué sans griller gare dans le monde pourtant très sérieux de la Formule 1, ce qui fait donc l'objet de la catégorie suivante. Les nominés pour le SAV d'or du record qui a tellement d'intérêt qu'on est prêt à lui donner un SAV d'or pour qu'on ne nous en parle plus jamais, récompensant le record qui n'a plus vraiment de sens sauf pour se consoler de ne pas gagner plus souvent, sont...
Le record de la restante le plus rapide, le record du nombre d'arrivées consécutives dans les points, le record de points marqués en carrière, le record du nombre de grands prix terminés consécutivement par un rookie.
Et le vainqueur du SAV d'or du record qui a tellement d'intérêt qu'on est prêt à lui donner un SAV d'or pour qu'on ne nous en parle plus jamais est... Le record de points marqués en carrière.
C'est la première nomination et la première victoire pour ce record que les changements de barème successifs ont rendu à peu près aussi pertinent qu'une consigne d'écurie chez Marussia. Fernando Alonso, lors du Grand Prix d'Inde, a même tenu à sacraliser le nombre 1571 en inscrivant aucun point. Une récompense méritée.
Ça, alors, donc, pour revenir sur cette catégorie, 67 votes sur les 189, donc ça fait à peu près un tiers. C'est pas non plus très très serré, puisque le suivant, c'est le record du nombre de Grands Prix terminés consécutivement par un rookie avec 50 votes. Suit le record de l'arrêt au stand le plus rapide avec 41 votes. Et enfin, avec 22 votes, le record du nombre d'arrivées consécutives dans les points.
On demande si c'est Dino qui a fait la catégorie.
Oui, parce que c'est long.
Alors, faut expliquer le processus de création de ces SAV d'or. Hein. On a mis un peu toutes les catégories qu'on avait imaginées. Après, enfin, c'était chacun des propositions. Après, on a fait une petite réunion pour décortiquer un peu ces catégories, les affiner, les reformuler. Apparemment, les formules, il fallait un peu les changer. Je pense que c'est les SAV d'or qu'on a peut-être le plus réfléchi de toute l'histoire des SAV d'or. C'est dire qu'il y a encore de la marge. Mais je tiens à démentir, il n'y aura pas de coup de gueule de ma part sur ce SAV d'or.
Ah, celui qui a gagné, c'est celui qui s'est le plus mis en avant finalement.
Oui, c'est ça.
C'était assez ridicule d'ailleurs.
C'est les SAV d'or de cette année, mais c'est presque un travail pluriannuel parce que ça fait des années quand même. Oui, enfin, ça sert plus grand chose quand même.
C'est surtout que si Vettel continue à ce rythme-là, bah, il le gardera pas bien longtemps, son record de points, parce qu'il est pas très très loin, Vettel.
Ah, surtout s'il gagne à Abu Dhabi, quoi, tu vois.
C'est vrai, oui.
Encore plus. Ah, sinon, après, le record du nombre de Grands Prix terminés consécutivement par un rookie, c'est un peu l'invité de dernière minute dans cette catégorie. Dans son...
Et il fait un beau score.
Mais lui aussi, il a profité d'une belle médiatisation en fin de saison. Quoi.
Oui, bravo Max.
Ouais,
bravo,
il fallait Max. Bien trouver un mérite à Max Hilton. Donc, bon,
la presse anglaise, on peut toujours compter sur elle.
Mais il est très très fier de ce record, Max Hilton. Attention.
Mais en soi, c'est pas un mauvais record, parce que, mine de rien, il a quand même fini les Grands Prix, ça tient pas que à la voiture, ça tient aussi au talent du pilote. Maintenant, c'est vrai que ça fait un peu record du pauvre. C'est un peu, voilà, quand tu te mets à te féliciter, qui se félicite de la fiabilité cette année? McLaren, Ferrari. voilà, c'est peut-être pas le meilleur. Encore une fois, on est vraiment pour le coup, dans l'ordre du record, que tu mets en avant parce que t'as rien d'autre à mettre en avant. Vettel, il a même pas besoin. Tiens, pourtant, Vettel, il a mis des records cette année. Mais il n'a même pas besoin de les mettre en avant. Il est 4 fois champion du monde. Ça lui suffit, en fait.
Non, mais on constate que les 3 premiers, c'est les trois records dont l'auteur s'est vanté, quoi. Parce que le 4e, à la limite, c'est surtout les médias qui en ont fait beaucoup. Mm. Mais les 3 premiers, à chaque fois, l'auteur en a touché un petit mot, quoi. Donc,
Après, c'est vrai, comme ça a été dit sur le chat, le record de l'arrêt au stand le plus rapide. Ouais, sauf que c'est les équipes qui se chronomètrent elles-mêmes. Donc, bon, on n'est jamais non plus vraiment sûr. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Un record déclaratif, quoi, ça, c'est...
Oui.
C'est un concept.
Et donc, messieurs, je vous propose tout de suite de passer à la catégorie suivante.
Oh oui.
Yes, sir.
Mais allons-y.
Et vous savez, les lunettes, c'est important. Bon, évidemment, c'est utile pour lire un livre, des panneaux routiers ou des conneries dans le genre, mais c'est surtout important pour viser correctement dans la cuvette des toilettes, et ce n'est pas nos auditrices, qui sont sans doute présentes ce soir, qui nous diront le contraire. Mais les lunettes peuvent également vous être d'un prompt renfort lorsqu'il s'agit, au détour d'une conversation, lors d'une soirée entre amis, de proclamer une des branches calées entre deux incisives. Mais tu sais, l'esthétique d'une science naturelle ou des mathématiques est la même que celle de la musique ou de la peinture. Pour les unes comme pour les autres, elle est l'aspiration à la découverte d'une forme partiellement cachée. Mais les lunettes peuvent également éviter à certains pilotes de se mettre dans l'embarras et accessoirement leurs petits camarades dans le mur. Alors, sans plus attendre, les nommer pour le SAV d'or du mec qui aurait mieux fait d'aller chez Alain Afflelou, quitte à devoir mettre un euro de plus pour une deuxième paire de lunettes, récompensant le pilote qui avait visiblement besoin d'une visite chez l'opticien, sont
Romain Grosjean pour ne pas avoir vu la Toro Rosso au freinage de la chicane à Monaco. Max Hilton pour ne pas avoir vu la Williams de Pastor Maldonado à sa droite dans le bureau de tabac à Monaco. Felipe Massa pour ne pas avoir vu deux fois la bosse qu'il a envoyée dans le mur à Monaco. Sergio Pérez au Bahreïn pour ne pas avoir vu que la voiture grise à côté de lui, c'était celle de son coéquipier. Guido van der Garde pour ne pas avoir vu les drapeaux bleus et du même coup Marc Weber à l'épingle au Canada. Lewis Hamilton pour ne pas avoir vu Valtteri Bottas en bout de ligne droite à Interlagos.
Et messieurs, est-ce que quelqu'un aurait une enveloppe, s'il vous plaît?
Attends.
On en a 3.
C'est bon. Et donc, je vais ouvrir les 3 enveloppes qui entourent le nom de ce lauréat. Et donc, le SAV d'or, le vainqueur du SAV d'or du mec qui aurait mieux fait d'aller chez Alain Afflelou, quitte à devoir mettre un euro de plus pour une deuxième paire de lunettes, et Felipe Massa pour ne pas avoir vu deux fois la bosse qu'il a envoyée dans le mur à Monaco.
C'est le 5e SAV d'or personnel de Felipe Massa, le 2e de la soirée. Sa régularité dans la réalisation de la scène de l'accident à San Devote lors du tournage du Grand Prix de Monaco l'aura propulsé tout droit dans la cour de ses illustres prédécesseurs tels qu'Andrea De Cesaris ou Yuji Ide, mais aussi, bien sûr, vers le rail de sécurité. Un retour en grâce pour un pilote qui n'avait plus rien gagné depuis longtemps. Bref, une récompense méritée.
Et donc, historiquement, si j'ai bien compris, c'est la 4e récompense pour un fait de course totalement foireux de la part de Felipe Massa.
C'est ça.
Une magnifique victoire avec 81 votes pour 42,86% des sondages. Il devance, quand même avec le double de voix, Sergio Pérez au Bahreïn, 21,16% pour le Mexicain. Romain Grosjean est quant à lui 3e avec 26 votes pour 13,76%. Et suivent derrière Guido van der Garde avec 16 votes, Lewis Hamilton 13 votes,
attention, Lewis Hamilton, côte à côte, j'ai envie de dire, avec Max Chilton, qui lui aussi a eu 13 votes. Petite déception d'ailleurs pour Max Chilton, qui aurait quand même magnifiquement mérité ce SAV d'or. Voilà.
C'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, l'accident.
Une axe moi à la bouche ce soir.
Non, mais c'est pas possible. Max Chilton, c'était le grand spectacle. Ça a quand même arrêté la course et tout. Enfin, c'est. Non.
Non, je suis assez d'accord avec toi.
J'ai voté pour ça, donc.
Bah oui, moi aussi.
Eh bien, moi, j'ai voté Guido van der Garde. Par rapport, en fait, c'était pour l'ensemble de son œuvre, en fait, parce qu'avec les deux autres Marussia, ça a été plutôt une constante cette année que de ne pas voir les drapeaux bleus et de ne pas voir les pilotes qui les rattrapaient, quoi. Enfin, c'est, si on excepte Bianchi, les trois, là, qu'on tenait cette année, c'était vraiment des spécialistes dans le fait de ne pas laisser passer, de ne pas voir, de différer le dépassement.
Et même Bianchi, c'est quelquefois fait rappeler à l'ordre. Je me rappelle même en Espagne où il a du mal à s'écarter devant Fernando Alonso, mais si à Barcelone c'est un peu compliqué, mais même Bianchi n'y a pas échappé.
Ouais. Sinon, c'est vrai que Felipe Massa c'est quand même le côté c'est difficile. Exactement la même chose quoi.
C'est tant que je gagne.
Ouais,
je...
Voilà,
c'est ce côté magique quoi.
C'est Monaco. C'est...
En même temps,
c'est
vrai
pas
que...
un Belge Massa.
Non mais c'est surtout en
la
plus
ne répond pas donc elle consent.
Non c'est surtout que je m'abaisse pas à répondre. Écoute, je paraphraserais bien Laurent Baffy, mais bon, je veux pas être désagréable.
Non mais c'est on en était venu à se demander si c'était pas un problème mécanique la première fois. La deuxième fois nous a confirmé que c'était pas un problème mécanique.
Si, mais dans la boîte crânienne de Massa, quoi, le problème mécanique.
Je crois en plus qu'ils ont donné, même Ferrari avait donné une explication mécanique.
Oui, oui.
On dit que c'était la suspension, etc. Et deux fois au même endroit. C'est la deuxième fois, on s'est dit, ouais, Ferrari, vous êtes gentil. vous avez quand même un problème avec vos pièces.
C'est surtout que Massa avait déjà fait deux fois la même erreur en Inde en 2011, c'est les fameux boudins orange.
Oui.
C'est pareil, deux fois il avait remis les roues dessus, avait cassé une suspension.
Alors attention, on a un débat sur, on a quelqu'un qui lance un débat sur le chat. On a Kev qui nous dit que pour Grosjean il n'est pas trop d'accord pour sa domination, car il estime que Ricciardo a freiné un peu tôt en regardant bien les images. J'ai envie de dire, Kev, pour cela, nous te renvoyons vers le SAV du Grand Prix de Monaco, où on a sans doute dû dire des conneries d'ailleurs, comme souvent des.
Comme tout le temps.
Ouais. Ça peut quand même nous amener à nous intéresser quand même sur les beaux cartons de l'année. Le plus beau, ça reste quand même celui de Max Chilton avec
Maldonado. Oui.
À Monaco, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu Max Chilton, donc avec Maldonado.
Monaco, c'est un peu, ça rappelle le SAV d'or Martin.
Grosjean et Toro Rosso. On en a parlé. Il y a quand même eu aussi Raikkonen et Perez. C'était chaud Monaco cette année. Hein.
Ah, c'était une course spectaculaire pour le coup. Autant l'année dernière, elle avait été chiante comme la mort. Autant cette année, quand même, c'est pas forcément une course qui était très intéressante, mais c'était une course qui était très spectaculaire, effectivement.
Alors, apparemment, et... Fab, tu as fait un voyage avec la mort, et tu l'as trouvé chiant.
Oui,
en parler.
Non, mais puis c'est quelqu'un qui a une grande conversation, toujours les mêmes sujets, non, mais c'est pas intéressant. Revenez, si je parle d'ailleurs à Michael, si tu la croises, barre-toi.
cours dans l'autre sens.
Cours, voilà, barre-toi et... Je comprends pas bien le placement. Je pense que les gens ne se sont pas souvenus, en fait. Parce que l'accident de Maldonado, c'est quand même le plus impressionnant de la saison, quoi.
Mais c'est ça, c'est surtout le seul truc que Maldonado fait bien à chaque fois, c'est se planter, un peu de reconnaissance,
quoi.
Surtout que Maldonado, on aurait même pu faire une catégorie pour Maldonado cette année.
Oh oui.
Plusieurs incidents où il perd ses roues, sa voiture a été sabotée, il faut le reconnaître.
Faut le reconnaître.
Ouais. Beaucoup de problèmes avec les pneus, Maldonado, en fait. Hein.
Oui, visiblement. Et notamment les murs de pneus, hein. Ou les pneus des autres voitures. C'est un choix. En fait, c'est ça son problème. Il est pas fait pour la Formule 1. Il faut qu'il fasse un sport de l'hydroglisseur ou un truc. Je sais pas. Il faut qu'il se démerde.
Bah, il peut aller retrouver Piquet Junior en NASCAR.
Non, mais là, il y a des
pneus. Nationwide.
Voilà, c'est ça.
Non mais Piquet, c'était pas les pneus son problème. C'était plus le béton. C'est ce qu'il y a derrière les pneus. En fait.
C'est les Formule 1 en fait en général.
Ah non, mais Maldonado peut l'aider à aller dans le mur. Tu vois, ça peut être drôle.
Ah bah oui, il y a des chances que ça se passe comme ça.
Voilà.
Et donc, messieurs, nous passons à la prochaine catégorie qui nous sera présentée par Fab.
Oui. Vous savez, le secret, c'est important. Quoi de plus commun, quoi de plus universel que le secret? Le secret est tantôt caché, tantôt découvert, tantôt avoué, tantôt inavouable, tantôt défense, tantôt médical, tantôt tentant et tantôt tenté. Il est des secrets que l'on aimerait ne jamais connaître, comme celui de Jessica, fille de Phil Barney et Régine, dans Secret Story, ou des secrets que l'on sait douloureux et profonds, comme celui de Brokeback Mountain. Mais de tous les secrets, celui qui est étalé à la vue de tous est certainement le plus fascinant, tant par la gêne qu'il occasionne que par la mésentente qu'il couronne. Et les nommés pour le SAV d'or Wikileaks, récompensant la situation qu'on n'a pas réussi à garder secrète, sont...
Le multi-21 entre Weber et Vettel chez Red Bull, les problèmes salariaux de Kimi Raikkonen chez Lotus, le sabotage de la voiture de Maldonado chez Williams, le laisser-faire de la FIA dans les essais Mercedes-Pirelli.
Et le vainqueur du SAV d'or Wikileaks est les problèmes salariaux de Raikkonen chez Lotus.
C'est le second SAV d'or pour le duo Raikkonen-Lotus ce soir, après celui décerné à Alan Perman. Ce prix salue une saison ponctuée par les problèmes financiers de l'écurie britannique qui ont fini par lasser à Kimi Raikkonen qui en avait finalement plein le dos. Une récompense méritée. Méritée mais qui ne rapporte rien, hein, donc pas la peine de fondre le trophée pour essayer d'en faire des lingots, hein Eric.
Je crois que cette catégorie est en train de tuer Gus Gus.
Alors,
c'est serré. C'est très serré donc entre les deux premiers, hein, puisqu'on a les problèmes salariaux de Raikkonen qui ont récolté 64 votes et le laisser-faire de la FIA qui a récolté 61 votes. Pas très loin derrière d'ailleurs, le Multi 21 a récolté 52 votes et puis bon bah le sabotage de la voiture de Maldonado, 12 votes seulement, mais c'était quand même l'outsider hein, de cette catégorie.
Et surtout, il n'avait même pas sa place. Enfin, techniquement, c'est pas un secret. Enfin, c'est quelque chose qui n'existe même pas. Enfin, lui-même a reconnu que, ouais, il s'était fait des films. Donc, c'était une catégorie à trois. Donc, on avait du mal à trouver un quatrième. Donc, on s'est dit, on va rajouter quelqu'un.
Et ça se voit.
Mais il y a eu, les deux se sont détachés rapidement. Mais il y a quand même eu un moment où le Multi 21 est revenu en force. Et puis, sur la fin, il y a eu à nouveau. L'avance, mais très longtemps, le laisser-faire de la FIA dans les essais Mercedes Pirelli avait la tête de cette catégorie.
Est-ce que tu penses que le Multi 21 a eu des consignes pour ralentir afin de préserver ses points?
Je pense.
Non, mais c'est clairement, enfin, l'affaire, le secret qu'on aurait peut-être pu éviter, surtout cette année, c'est celui de Kimi Raikkonen. La FIA, heureusement qu'il est sorti, mais Kimi Raikkonen, sincèrement, ça aurait pu très bien rester en interne et qu'on n'en avait pas besoin de savoir. Ça a été véritablement, pour le coup, c'est quelque chose qui a été sorti de l'équipe par les managers et par Kimi Raikkonen, sans qu'il y ait véritablement de besoin à ce que ce soit rendu public, si ce n'est de pouvoir négocier mieux ailleurs ou...
Mais alors justement, c'est pour ça que moi j'ai voté pour le laisser-faire de la FIA, parce que c'est une bonne chose que, c'est justement pour garder le positif, la bonne chose que ce soit pas resté secret. Parce qu'on a eu de très mauvaises habitudes jusqu'ici avec les différentes affaires qu'on a eues avec la FIA, c'est que finalement on avait assez rarement le fin mot de l'histoire, ça se réglait entre quatre murs, et justement ça restait secret, la résolution de l'affaire restait secrète, les tenants et les aboutissants. Là, cette année, on a eu avec le tribunal une procédure qui a fait que on était au courant très clairement de quelle était la décision, de pourquoi, de quels étaient les arguments des différents partis. Et donc, du coup, voilà, c'était pour souligner ce côté positif que j'ai voté pour ça.
Un peu comme Wikileaks.
Oui, oui. Justement. Voilà. J'avais pas fait le rapprochement, mais tu vois, comme quoi je suis inconsciemment intelligent.
Mais il est déjà conscient qu'il est inconsciemment intelligent, donc moi je dis bravo. Ouais. C'est une belle preuve d'intelligence.
Moi je crois que j'avais voté pour le Multi 21.
Ça m'étonne pas.
Ouais.
T'as invendu.
Ouais, c'est ça. Non mais je suis surtout un loser.
T'es abonné aux troisième place.
En plus je m'étais dit, oh là quand même tu joues la sécurité.
Et puis bah finalement apparemment non, même pas.
T'es hyper loser, c'est-à-dire que tu ne lourds pas, t'es pas vraiment loser dans la mesure où t'es pas tout le temps dernier, t'es tout le temps avant dernier.
Oui, c'est pire que ça. Oui.
Alors que tu devrais savoir que Raikkonen est toujours gagnant. En fait.
Ouais, c'est vrai.
Même dans la nullité, tu n'excelles pas. C'est terrible.
C'est le pire. C'est le médiocre. Non, mais.
Tu sais, c'est le 1 sur 20. C'est pas 0, c'est 1. Pourquoi 1 ?
Un demi.
Eh oui. Bon, en même temps, c'est pas un secret qu'a tenu très longtemps, finalement. C'est que... Il a dû tenir 10 minutes après la course, et puis voilà. Mais voilà. Donc...
Bah, comme le dit Kev sur le chat, c'est même un secret qu'a fait pchit devant nous, devant les télés du monde, parce que il y a eu des conversations radio qui, très vite qui sont arrivées. Enfin, on a vite deviné qu'il y avait eu des consignes et qu'elles n'avaient pas été respectées et que la fin, la conférence de presse, etc., tout ça est juste venu confirmer ce qu'on avait déjà compris en regardant
Ce qui était beau, c'était quand on a cherché le sens de multi 21. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un code et tout? Bah, en fait, c'est 2 devant 1. Weber devant Vettel. Ah. Ouais.
C'est élaboré, la Formule 1, quand même, hein.
Carrément.
On bosse.
C'est ça, quoi.
C'est qui on? Parce que ça a pas l'air d'être nous, hein, visiblement.
Ça se saurait si on bossait, oui.
C'est clair.
Et donc, la catégorie suivante va nous être présentée. On a fait un deuxième tour de table. Va nous être présentée à nouveau par Shinji, qui normalement devrait être extrêmement soft cette fois-ci. Nous allons être attentifs à toi, Shinji. Alors, Shinji, vas-y. Rappelle-nous le moment soporifique de l'émission.
Vous savez, être célèbre, c'est important. Andy Warhol énonça sa fameuse phrase « Dans le futur, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale en 1968. Il y a plus de 45 ans. Rendez-vous compte, à l'époque en France, on avait 2 chaînes de télé et un film pouvait mettre 1 an à franchir l'Atlantique. Et pourtant, quel visionnaire! Sans doute aurait-il été fasciné par nos sociétés modernes où les gens veulent devenir célèbres avant d'être talentueux, où des chats font des millions de vues sur Internet et où des crétins sans cervelle deviennent des idoles. Ouais, c'est trop swag. Quoi de plus logique, donc, de mettre à l'honneur aujourd'hui ceux qui, comme le prophétisait le roi du pop art, ont eu leur moment de gloire cette année en Formule 1, ont su briser la monotonie d'un week-end de course. Une célébrité fugace, mais ô combien marquante. Chers moteurs, voitures, pneus, monoplaces ou objets volants, non, nous ne vous oublierons pas. Vous qui avez parfois su quitter la lumière dans un magnifique panache. We will never forget you.
Oula.
Les nominés pour le SAV d'or Andy Warhol, récompensant le véhicule ou le composant d'un véhicule qui a voulu tirer la couverture à lui seul pour connaître enfin son heure de gloire, sont...
La voiture de pompier qui a voulu mener le Grand Prix de Corée du Sud, la Marussia de Jules Bianchi qui se fait la malle en Allemagne, le pneu fou de Marc Weber qui s'en va percuter un caméraman dans les stands en Allemagne, le moteur Renault de Romain Grosjean qui voulait être le dernier V8 à casser en Formule 1, la Red Bull qui préfère s'immoler en Corée du Sud plutôt que de continuer à rouler entre les mains de Marc Weber, l'hélicoptère médical lors des essais libres du Grand Prix des États-Unis.
Et le SAV d'or Andy Warhol récompensant le véhicule ou le composant d'un véhicule qui a voulu tirer la couverture à lui seul pour connaître enfin son heure de gloire.
Et c'est une enveloppe qui contient le véhicule en entier.
Oui, en entier.
Je me demande s'il déchire pas le résultat à chaque fois.
C'est la voiture de pompier qui a voulu mener le Grand Prix de Corée du Sud.
C'est la première fois qu'un véhicule autre qu'une Formule 1 est récompensé lors d'une cérémonie des SAV d'or. Une distinction surprise pour Liu Pyongli et Yan Hunsun, pilote et copilote du camion, qui pourront se targuer d'avoir eu plus de SAV d'or que Bernd Mehlander, pourtant plus souvent en tête d'un Grand Prix. Une récompense méritée.
Je vais mourir, je crois.
Bon, je crois que vu que t'as déjà un contrat à vie, il va maintenant falloir penser au clonage.
Prochaine vie, ouais.
Je suis pas sûr qu'il va arriver au bout de son contrat. Il va pas.
Le truc, c'est qu'il, peu à peu, il est en train de tuer Gus Gus. Il va tous le tuer. À un moment donné, il ne pourra plus faire l'émission.
Et il va falloir qu'il développe le site et tout.
Ça, c'est mal foutu.
Alors, encore une fois, en même temps, les pompiers, on les aime tous. Hein. Ils nous ont vendu leur calendrier, là, le mois dernier. Hein. Et 92 votes, quand même. 48,68%. Largement devant la Marussia de Jules Bianchi, qui a fait 17%. Le pneu fou de Marc Weber, 11%. Le moteur Renault, 11% aussi. La Red Bull, qui préfère simuler en Corée du Sud, 8%. Et l'hélicoptère médical, seulement 3 pourcents.
Je crois que le nombre de nominations, c'est le plus gros. Les deux catégories qui avaient eu le plus de votes, il me semble qu'elles étaient que sur 4, alors que là, c'est sur 6.
Oui, là, c'est sur 6, oui.
6, 48% sur 6, c'est très costaud.
Ouais.
Voilà.
Ah, écoutez, l'an prochain, il n'y a plus le Grand Prix de Corée du Sud. Ceci, enfin, oui, il y a des raisons.
C'est le coup de panache de l'organisation, quoi.
Oui.
C'est pour montrer que eux aussi savent faire des trucs.
Ça reste clairement l'image de la saison, quoi. Enfin,
Oasis, il demande c'est quoi l'histoire de l'hélico aux essais libres. C'est vrai que comme c'est les essais libres, moins de gens l'ont peut-être vu. Est-ce qu'on peut le rappeler?
Loser.
Nous, on est au chômage, on regarde les essais libres.
Nous, on est des winners.
Bah, ce qui s'était passé, c'était que on trouvait plus l'hélicoptère. Il y avait à un moment, il n'y avait plus d'hélicoptère médical.
Qui a un problème mécanique. Je crois qu'en plus, ouais. On en a eu plus. En fait, c'est pas un problème mécanique, mais il y a un problème de radio pour l'hélicoptère, donc il pouvait pas, servir. Il pouvait pas communiquer avec l'extérieur en vol, donc ça sert à rien.
La séance avait démarré sous le brouillard et elle avait été déjà repoussée. Quand le brouillard s'était dissipé, on avait repris et on s'était aperçu au bout de 5-10 minutes qu'il n'y avait pas d'hélicoptère médical. C'est problématique. On est tous d'accord. Donc on avait arrêté à nouveau la séance en attendant le retour d'un hélicoptère qui fonctionnait. Voilà. Ce qui est peut-être pour ça qu'il y a eu que 6 votes finalement.
Oui.
Oui, non, mais sinon la voiture de pompier, c'est l'image négative et insolite de la saison, ça c'est sûr. Enfin, une voiture, enfin un véhicule extérieur qui débarque en plein milieu d'une course, enfin c'est du jamais vu depuis des années en Formule 1. Enfin, puis on s'attend pas à ce que dans une discipline aussi bien organisée, ça se passe comme ça. Mais c'est sûr que comme Shinji disait tout à l'heure, le fait que ce soit en Corée peut-être explique aussi ce côté organisation un peu light.
J'insiste vraiment toujours sur ça, c'est qu'on a eu il y a 2 ans, je crois, en Australie le camion on avait les voitures qui étaient passées à côté du camion. Bon, c'est, je crois que le camion n'était pas rentré en course, mais enfin on est typiquement dans le même type d'image, sauf que là, ce que je pense, c'est que derrière il y avait effectivement le côté c'est le Grand Prix de Corée, c'est mal organisé, etc.
Ouais, mais là,
Ton camion, c'était sous safety car, c'était un peu moins. Voilà,
sous safety car, les véhicules interviennent plus régulièrement quand même.
Ouais, mais l'image, là, il y a eu un camion en Belgique aussi il y a 3 ans, je crois.
Là, je pense qu'il y a clairement le côté voilà, mauvaise organisation et qui n'est pas forcément d'ailleurs totalement imputable. On en avait débattu, mais
non, oui, tout à fait.
Totalement imputable à la Corée. On pouvait très bien se poser des questions aussi sur pourquoi c'est l'organisation sur place qui doit se charger de ça. Si c'est pas validé par la FIA, soit à l'instant, soit même dans l'organisation, c'est pas compréhensible. Donc voilà, ça reste une belle image. Ça sera la trace du Grand Prix de Corée dans le championnat du monde de Formule 1. Ça sera ça, c'est un 4-4.
Alors, parler d'images surprenantes, mais moi j'ai pas voté pour ça, j'ai voté pour le pneu fou de Marc Weber, parce que je suis encore sur les fesses, pardonnez-moi l'expression, de savoir que le gars a quand même survécu, quoi. J'ai vraiment très très peur sur le coup en voyant cette image du pneu qui percute comme ça à pleine vitesse, hein. Enfin à pleine vitesse non, mais un pneu à 80 km/h, c'est pas n'importe quoi, qui percute le caméraman et...
Ouais, puis qui a pas pu se préparer au choc en plus, puisqu'il ne regardait pas dans la direction.
Mais en plus, ce qui est entre guillemets intéressant cette saison, c'est qu'on a eu l'image inverse, c'est-à-dire qu'on a eu l'image d'un accident qui s'est quasiment passé sous nos yeux, qui a eu des conséquences fatales. C'est l'accident du commissaire au Canada, dont on a tous plus ou moins des repères. On se rappelle avoir vu à la fin du Grand Prix la grue avec la voiture qui bougeait, et ça a été un accident grave. Et pourtant, on n'a pas forcément le sentiment que cet accident était spectaculaire ou présentait un enfin voilà, que les circonstances présentaient quelque chose de gravissime. Là, c'est vrai que sur le coup, dans l'immédiateté aussi, on a eu vraiment peur pour le caméraman. Ouais. C'est peut-être aussi l'effet du direct.
Oui, bah sûrement. De toute façon, il y a.
Ah bah oui. Déjà, il y a une image qu'on a vue, et une image qu'on n'a pas vue.
Voilà. Ouais, donc
déjà très clairement, il y a une distinction. C'est vrai que niveau sécurité, l'année 2013 a pas été terrible, hein. Que ce soit sur la piste ou hors piste. Entre Maria de Villota, le commissaire, Schumacher,
oui.
le Alan Simonsen au Mans, enfin c'est...
Sean Edwards en...
Oui, tout à fait. Porsche Carrera Cup, enfin c'était en...
Il faisait des tests en...
leçon de pilotage, voilà. En Australie.
L'occasion quand même, parce que enfin on n'a pas eu l'occasion de, enfin on n'a pas eu le temps tout simplement de faire la vidéo, et je vous avouerai que je n'avais pas forcément le cœur de la faire ce début de semaine. Il n'y aura pas la vidéo, en tout cas pas ce soir, ou peut-être qu'on j'essaierai de la faire ce week-end si j'ai le courage. Mais c'est quand même l'occasion de saluer quand même la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés cette année. On a quelques personnalités des pilotes plus ou moins connus. On peut citer parmi ceux qu'on connaît peut-être le mieux, c'est José Froilán González, qui est le premier vainqueur Ferrari, qui a participé à une vingtaine de grands prix, qui avait remporté 2 grands prix. On peut citer donc Maria de Villota, qui était la pilote d'essai de Marussia, qui avait eu un accident en 2012 et qui est décédée cet automne, sans doute les conséquences de son accident. On a également donc le commissaire au Canada qui nous a quittés, et puis 2 pilotes en compétition, Sean Edwards donc et Simonsen. Et également pour avoir une pensée toute particulière, parce que là c'est de l'ordre du présent, pour Michael Schumacher qui est encore à l'hôpital de Grenoble dans une situation dont on n'a pas de nouvelles. Donc c'est encore une fois bon signe, on n'a pas de nouvelles, c'est qu'il n'y a pas d'aggravation. Mais si on n'a pas non plus de nouvelles, c'est aussi qu'il n'y a pas d'amélioration significative. Donc voilà, on pense évidemment à lui, à toute sa famille, et également à tous ceux qui sont directement concernés, ses fans, etc., qui sont touchés et émus par
lui, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, vendredi. 3 janvier.
Oui, est-ce qu'il y a l'occasion de faire des articles qui vont générer des vues juste en disant voilà, Schumacher est dans le coma le jour de son anniversaire, sans donner d'informations supplémentaires au passage.
Ouais.
Je dis ça, je dis rien. Et donc, messieurs, je vous propose de passer à la catégorie suivante, qui va nous être présentée, si je ne me trompe pas, par Gus Gus.
Par Ben.
J'avance trop vite dans le palmarès.
T'as envie qu'on en finisse, hein, j'ai l'impression.
Je suis fatigué.
Et le gros morceau de l'émission est pas encore arrivé.
C'est sympa, surtout que j'ai froid, en fait. Je suis dans ma cave et j'ai super froid, les mecs.
Faut prendre un pull, hein.
Mais j'ai déjà un pull.
Ah, le pragmatisme.
J'essaye de battre le record du nombre de t-shirts portés sous J'aimerais souffrir de ce que...
C'est 155, hein, c'est le record. Hein, soit dit en passant, donc il t'en manque, hein.
Ah, au fond. Donc Ben, c'est à toi.
Ouais, c'est sympa les amis. Pourtant, vous savez, 30 millions d'amis, c'est important. Créée il y a 30 ans par Jean-Pierre Hutin, la fondation 30 millions d'amis milite pour rappeler que l'animal a des droits et que l'homme a des devoirs envers lui. Alors suite à une demande conjointe de l'association et de la SPA, nous prenons quelques instants pour rappeler quelques règles de base liées à la présence d'animaux dans les paddocks de Formule 1. Première règle, votre ami, qu'il soit à poil ou à plume, doit montrer patte blanche et disposer de son propre paddock pass. Alors pour toute requête, il faut voir ça avec Bernie, qui en ce moment traîne souvent devant le tribunal le plus proche. Deuxième règle, rappelons que le port de bouchons est obligatoire lors de toutes les séances du week-end. Et troisièmement, afin d'éviter toute manifestation de Greenpeace ou de toute autre organisation écolo-bobo-machin-chose, enfin bref, pour éviter les emmerdes, les organisateurs des Grands Prix demandent également aux spectateurs en tribune de ne pas jeter de graines sur la piste dans le but de nourrir les pigeons, et ce plus particulièrement à Monaco. Cela étant dit, les nominés pour le SAV 30 millions d'amis récompensant l'animal qui aura marqué la saison sont...
Le lièvre montré en train de bouquiner par Lotus suite au transfert de Raikkonen. Le pigeon cascadeur du Grand Prix de Monaco. Roscoe, le chien star de Lewis Hamilton. L'insouciant papillon du Grand Prix de Corée du Sud.
Et le grand gagnant de ce SAV d'or 30 millions d'amis est le lièvre montré en train de bouquiner par Lotus suite au transfert de Kimi Raikkonen.
À la cascade gracieuse d'un pigeon ninja ou à l'émouvante fin d'un papillon trop fragile pour un aileron trop rigide, les votants ont préféré la rudesse d'une étreinte virile entre deux lièvres. C'est la première fois qu'un lièvre et qu'un acte sexuel reçoivent un SAV d'or pour cette métaphore imagée. Une récompense méritée.
C'est dur de faire cette émission, vous savez. C'est dur.
La voix sera cet été sur TF1 dans Secret Story.
Mais surtout, ce qui est terrible, c'est que c'est totalement vrai. C'est-à-dire que dans le palmarès du SAV, il va rester quand même qu'un acte sexuel a eu un SAV d'or. Je me demande si c'est mieux ou pire que l'espoir.
Oh, je suis déçu. Moi, j'y croyais tellement au pigeon ninja, quand même.
Non, mais tu vas me laisser donner la suite du palmarès, oui.
Vas-y.
Bon, le pigeon. Le pigeon est donc deuxième. Pourtant, c'était une très belle figure. Ouais. Roscoe n'est que troisième. Et l'insouciant papillon fait bon dernier avec seulement 6% des votes.
Je suis triste. Hein. Ouais.
C'était tellement beau, le papillon.
Moi, j'aimais beaucoup le pigeon. Ralenti, c'est quand même...
Au backflip.
Faut dire que le papillon, c'est quand même la quatrième catégorie qu'on a rajoutée pour le mettre. Enfin, c'est...
Ouais, pourtant c'était tellement beau. Enfin, vous vous souvenez quand on a discuté que on a mis la vidéo du truc et qu'on l'a vu et on voit ce petit papillon qui vole.
Déchiqueté.
Et tranquille. C'est en Corée, c'est un gros plan en fait. Faut taper Corée butterfly. C'est un petit papillon jaune. Il volette, il est heureux. Il est là le petit papillon. Ah, je vole et tout. Et là, il y a une Lotus qui arrive.
Ça fait bien en plus.
En plus, c'est Raikkonen, je crois. Vous vous rendez compte, l'assassin. Le meurtrier. C'est pour ça qu'il y avait Greenpeace en Belgique. C'est qu'il savait que le mec qui gagne le plus en Belgique, c'est un meurtrier d'animaux. Moi, je dis tout est lié.
C'est terrible. Et en plus, c'est Shell qui va payer son salaire l'an prochain, mais c'est scandaleux.
Ah là là. Salopard.
Non, mais c'est ça, les gens, tu leur proposes la grâce, des paillettes et de la...
Est-ce que tu sais où tu veux en venir?
Oui, non, mais j'ai...
Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'on a chacun eu notre petit moment de gloire dans cette émission. Notre petit fail.
Mais le pigeon ninja a longtemps été en tête. Hein.
Le
très
pigeon
longtemps.
Ninja, quoi. Le backflip qu'il fait pour éviter la...
Super.
Rosberg, je crois.
Oui, oui. Non, mais décevant, là aussi. Les gens tombent dans la facilité.
Deux lièvres qui s'enculent et puis voilà. C'est bon.
Oh, qui copule.
Qui bouquine.
1h59 et 50 secondes.
En fait, non. Vers la fin, il remonte.
Non. Alors, non. Et en fait, c'est le lapin, le premier lapin avait le hoquet.
Il avait quelque chose de coincé dans la gorge.
Et l'autre lui prodiguait un massage. Mais bon, pas bon.
Aussi, il paraît que c'est la. Alors, faisons la petite minute utile. Il paraît que c'est la solution si vous avez le hoquet, d'après une étude américaine, je crois, c'est de pratiquer le massage anal. Voilà. Donc bon, voilà. Si vous avez le hoquet, patientez. C'est le conseil du jour. Soyez patient. Prenez votre mal en patience.
Mon Dieu.
Profitez-en, hein, c'est des exclusivités du direct, ça. Hein,
oh, ce sera dommage de le couper.
Oui, ce sera dommage. Ouais.
Ce sera dommage, oui. Non, mais Roscoe a lassé, je pense.
Ouais, il y a une espèce quand même de rejet. Il est même pas deuxième, il est troisième, largement derrière.
Alors, à mon avis, c'était le favori, quand même.
Je pense sincèrement que c'était le favori, ouais. Après, est-ce qu'il a marqué la saison
le début de saison
discret, à un moment donné.
Ouais, la saison, après, on a plus parlé. Enfin,
ouais, le problème, c'est que les autres n'ont pas davantage marqué le reste de la saison non plus.
Le problème, c'est que celui qui gagne, c'est finalement celui qui a le moins de lien direct avec la Formule 1, quand on regarde bien. Parce que ce lièvre-là n'avait aucun rapport avec le paddock. Bah, les autres, le pigeon, le papillon...
C'est-à-dire que tous les autres ont été sur les circuits.
Ah oui.
Ça, c'est vrai.
C'est un imposteur.
Tu ne sais pas. Ça se trouve, c'était un journaliste déguisé en lièvre. C'est ça, en ce moment, on ne sait jamais. On a parfois des surprises. C'était peut-être un journaliste déguisé en lièvre qui montait sur un vrai lièvre pour essayer de prendre une photo de Kimi ou un truc dans le genre. On ne sait jamais. Donc, messieurs, sur ces belles paroles, je pense que nous pouvons passer à la prochaine catégorie qui sera introduite, présentée, inaugurée par Gus.
Oui.
Donc, à toi, Gus.
Vous savez, la beauté, c'est important. Moi, les jours où je me sens moche, j'utilise Borapido de L'Aréal. Dès la première application, je suis visiblement plus belle en 15 minutes. Borapido traite efficacement les cernes, les poches et les rides. Alors n'attendez plus Borapido de L'Aréal, parce que je ne vaux rien. Malheureusement, l'auteur de cet embryon de lancement, pas très très réussi, avouons-le, n'a pas bien compris ce qu'il devait lancer. Le SAV d'or qui suit va récompenser le plus beau vainqueur de la saison, mais pas beau au sens esthétique du terme. La beauté, c'est important, mais dans le cas qui nous concerne, cela désigne davantage des considérations de panache ou de symbolique, en tout cas un grand prix dont le nom du vainqueur est particulier et fait plaisir à voir. Triomphe à domicile, succès haut la main, première victoire en grand prix, voici entre autres des qualificatifs en plein dans le contexte de cette catégorie. Les nominés du SAV d'or, comme Thiebaud, répond commençant le Grand Prix qui ne pouvait pas rêver d'un plus beau vainqueur, sont...
Le Grand Prix de Singapour que Sébastien Vettel a dominé comme il ne l'avait sans doute jamais fait auparavant. Le Grand Prix de Monaco où Nico Rosberg s'est imposé sur l'ancien chemin de son école. Le Grand Prix d'Allemagne où Sébastien Vettel a enfin été roi en son royaume. Et le Grand Prix d'Espagne, lors duquel Fernando Alonso s'impose enfin avec Ferrari.
Et le vainqueur du SAV d'or, comme Thiebaud, et... Le Grand Prix de Monaco où Nico Rosberg s'est imposé sur l'ancien chemin de son école.
C'est le second SAV d'or de l'histoire pour le Grand Prix de Monaco qui, après sa récompense pour la course la moins passionnante l'an passé, nous a offert cette saison un beau vainqueur à domicile dans une course qui, soyons honnêtes, est à peu près la course à domicile de trois quarts des pilotes, mais tout de même une récompense méritée.
Oui, alors il n'y a pas photo hein, sur cette catégorie, quasiment la moitié des votes qui étaient pour Nico Rosberg, 94 votes sur les 189, suivent les 52 votes pour le Grand Prix d'Espagne avec la victoire d'Alonso, 30 votes pour la victoire écrasante de Vettel à Singapour et 13 votes pour le Grand Prix d'Allemagne où Sébastien Vettel s'est imposé à la maison.
Ce qui est marrant, c'est que c'est des victoires à domicile, parce que bon, Rosberg, c'est quand même là qu'il a grandi.
Oui.
Qui sont à chaque extrémité du classement, quoi. Avec un bel écart, parce qu'il y a 7% pour Vettel, à peu près. Et 50% pour Rosberg.
Ah, moi, ce qui me fait le grand prix du mégavent à Alain Prost, quand même. C'est quand même le seul grand prix où le type qui devait interviewer, il a pas pu interviewer sur le podium. C'était pas possible.
Oui, ça va. Quand je pense, il y a quelques années, on s'est foutu de ma gueule parce que j'ai mis un drive-through au podium de Monaco et que Shinji se souvient de ce détail.
Oui, c'est vrai. Mais j'en ai pas fait un drive-through.
Oui, mais bon. Tu vois, ça aurait mérité.
C'est désespérant, quoi.
Mais je sais pas vous, moi ce qui m'a fait pencher pour Rosberg, c'est l'interview en français pour Canal+. Parce que là tu le voyais vraiment expansif, fou de joie quoi. C'est plus là que sur le podium qu'on l'a vu.
Ah oui, c'est pas
vraiment. Vraiment. C'est plus là. Non mais tu vois, t'es content quand tu brandis le trophée, etc. Il était content, mais là il était encore plus content. Il était ému en plus.
Ouais.
Parce qu'il racontait ses émotions dans la voiture dans les derniers tours. Disait qu'il allait se mettre à pleurer, enfin c'est...
Ah, c'est sûr que Monaco c'est toujours une victoire particulière, en plus on attendait les Mercedes, donc fallait pas se louper. Déjà en 2012 en soi les Mercedes faisaient partie des favorites, d'ailleurs Schumacher avait fait le meilleur temps des qualifications. mais voilà, enfin ici en Rosberg, et puis moi personnellement cette victoire-là elle a eu un petit goût... Petit goût de revanche aussi par rapport à la consigne qui est pas dramatique non plus de la Malaisie. Donc voilà, c'était sympa. C'était sympa que Solly qui gagne la première aussi parce que ça fait plus longtemps qu'il est dans l'équipe que par rapport à Hamilton. Donc c'est une belle façon aussi de marquer son territoire par rapport à son nouvel équipier qui devait être supposé le bouffer tout cru cette saison. Ça a pas été le cas.
Et en plus, c'est deux victoires de prestige, c'est Monaco et Silverstone. Enfin, si Silverstone, il gagne avec quand même quelques petites circonstances, mais voilà, c'est quand même deux victoires de prestige, un peu à l'image de ce qu'avait fait Mark Webber ces dernières années, face à Hamilton, qui a une victoire au Hungaroring, qui est une méga super victoire, mais qui est, pour des raisons qui m'échappent, un peu moins reconnue et estimée que Monaco et Silverstone. Voilà. Après, je suis bien content qu'on n'ait pas sélectionné Alonso, même si je suis extrêmement déçu que le Grand Prix de Singapour de Vettel ne soit pas plus haut. Ouais. Parce que sincèrement, s'il y a bien un Grand Prix cette année qui ne pouvait pas mériter d'autres vainqueurs, c'est Singapour. C'est... Alors, l'histoire est peut-être moins touchante. C'est vrai, je comprends qu'il y a...
Oui, parce que c'est pas ça la catégorie. Tant que ça, enfin, c'est le plus beau vainqueur. Alors, il y a différentes facettes, mais tu vois,
Singapour, c'est plus le plus dominateur.
Tu mets dans une même catégorie. catégorie, à la fois le beau au sens où mérité et le beau au sens où émotion. Et bon, bah, dans ce cas-là, évidemment que l'émotion, elle l'emporte, parce que on est toujours touché par une petite image intrandissante, et celle de Rosberg est touchante. Mais s'il y a un vainqueur moral de cette catégorie, c'est pour moi, c'est...
Oula!
Non.
Arrête-toi là.
C'est Sébastien Vettel, c'est voilà.
Mais c'est vrai que Singapour, c'est une course, d'abord c'est une course compliquée parce que le circuit est pas facile. Les conditions de course, il fait chaud, humide, c'est pas facile non plus, c'est pas simple, c'est la course la plus longue de la saison. Et puis c'est une course où Vettel termine avec une avance assez hallucinante en ayant eu une safety car. Il a dû gérer quasiment tout ce qu'on peut avoir à affronter pendant un Grand Prix. Des doublés, des safety cars, des restarts, il a tout géré magnifiquement, quoi. Il a été impérial du début à la fin, donc c'est vrai que il a 16% des votes, et c'est vrai que l'écart par rapport à Rosberg est assez important, et même étonnant, c'est vrai que j'aurais au moins vu deuxième avec un écart plus faible que ce qu'il est.
Et c'est un peu la seule course où on a eu l'impression cette saison qu'il avait le
quartier libre.
Quartier libre, et c'est un peu l'impression qu'on a sur l'ensemble de cette saison, c'est d'avoir vu un champion qui a véritablement endossé l'habit du champion, du triple champion du monde qu'il était, et du quadruple qu'il est venu maintenant, dans le non-respect des consignes en Malaisie, dans cette victoire à Singapour où c'est clairement lui qui fait la Red Bull lui aurait quand même permis de gagner, mais il n'a pas eu besoin de maîtriser, il a pu attaquer et se faire plaisir, dans le fait de faire des donuts et de célébrer son titre au mépris des amendes, etc. Voilà, on a senti quelqu'un qui se montrait un peu plus et qui
s'affirmait,
qui faisait pour qui s'affirmait, qui faisait preuve de son caractère. Et c'est peut-être ce qui donne une teinte un peu particulière à son titre cette année.
C'est bien dit.
C'est le titre de la maturité.
Tu vois, Lewis, encore 4 duos et tu es.
Après, Alonso, c'est quand même dingue. Bon, il avait gagné à Valence. C'est quand même l'Espagne. Mais là, se dire qu'il ne gagne le Grand Prix d'Espagne que maintenant...
Avec Ferrari, il a déjà gagné avec Renault il y a quelques années, je crois.
Ah oui, c'est vrai.
En 2006. 2005.
Mais ça fait un paquet d'années quand même, hein.
Oui, mais il est toujours très 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 bon en Espagne. J'ai envie de dire, c'est quand même la récompense de Grand Prix qu'il a fait les années précédentes, qui était absolument magnifique. L'année dernière, il avait été bon, mais il y a deux ans aussi, il y a deux ans ou il y a trois ans où il prend un départ de folie et voilà, c'est un Grand Prix où clairement il est transcendé en Espagne. Il y a un truc entre Alonso et le Grand Prix d'Espagne. Si tu faisais face à Red Bull, face à Vettel tels qu'ils sont aujourd'hui, Alonso dans la Ferrari de 2012 que sur un Grand Prix d'Espagne. Je pense qu'Alonso serait champion.
On n'est pas en MotoGP, malheureusement.
Il faut que ça change.
Le championnat d'Espagne de Formule 1.
Moi, je dis, il faut, tu prends le champion, et ben, si t'as un champion, tu multiplies le nombre de circuits par rapport au nombre de titres. Donc, l'année prochaine, il y aurait 4 grands prix en Allemagne, 2 grands prix, putain, il y aura un grand prix en Finlande. Il y aurait 2 grands prix en Espagne, 1 grand prix en Grande-Bretagne, et puis le reste, ben, voilà.
Démerdez-vous.
Voilà.
Je pense qu'on tape sur la FIA pour les règles à la con.
Mais t'imagines, 4 grands prix en Allemagne. Nürburgring, Hockenheim,
Lausitzring.
À la bus. Et donc, messieurs, c'était notre dernière catégorie soumise au vote.
Oui.
Puisqu'il ne nous reste plus que 2 catégories.
Précisons donc qu'il y a une dernière catégorie et ensuite il y aura les résultats. Du vote en live.
Voilà. Et donc le SAV suivant, c'est le SAV, c'est le Grand Prix, enfin c'est le Grand Prix. C'est la récompense ultime dans le SAV pour nous, en tout cas pour nous, à notre égard.
C'est notre village.
Voilà, c'est le SAV d'honneur et vous savez, l'honneur. C'est important. En effet, avec un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros pour 3700 entreprises et 39 000 emplois générés, l'honneur est le troisième département de France dans le secteur agroalimentaire. Mais ce n'est pas tout. Avec un chiffre d'affaires de 9,3 milliards d'euros, sans l'indignation générale, pour 55 000 emplois générés, le secteur automobile fait que l'honneur occupe le deuxième rang national, avec Boulogne-sur-Mer, l'honneur dispose du premier port de pêche de France en termes de volume et le principal centre européen de traitement des produits de la mer. D'ailleurs, si l'honneur n'était pas important, Pierre Bachelet n'y aurait sans doute pas consacré une chanson. L'honneur, c'était des...
On touche le fond.
Arrêtez-vous, quoi.
Alors, sans plus attendre, je vous invite
oui.
à découvrir ceux qui ont l'honneur d'être sélectionnés pour le SAV d'or des 7 cornichons qui animent un podcast sur la F1. Alors là, bon, il n'y a pas de nominé officiel. Hein. On a fait un petit tri entre nous avant. Et on avait retenu, il me semble, trois candidats.
Trois.
Fab, peux-tu nous les remémorer?
Bien sûr. On avait retenu le film Rush, Romain Grosjean et Sébastien Vettel. À débattre.
Bon, moi, vous
à
savez débattre. Ce que j'en pense. Voilà.
Eh bien, moi, je proposerai un quatrième nominé. L'humour de Dino. Enfin, l'humour. Entre guillemets.
Oui, mais à la condition qu'il prenne sa retraite.
Oui. Non, ça pourrait compenser une belle carrière dans l'humour, mais voilà, c'est, merci.
L'humour de Dino, c'est une question de perception, en fait.
Oui. Il faut des lunettes 3D pour le comprendre.
C'est long, hein.
C'est pouf.
Donc faut savoir qu'on a pour retenir ces trois candidats
nominés candidats
ces trois
finalistes
ces trois finalistes on a tout simplement chacun a dit ce qu'il estimait pouvoir être candidat. On a fait une longue liste et après on a fait un premier tri. On est arrivé donc sur ces trois noms. Peut-être un petit tour de table s'il y en a qui veulent défendre tel ou tel candidat. Le film Rush, est-ce qu'il y en a un entre vous qui voudrait le défendre, expliquer pourquoi pour lui c'était un futur lauréat.
Il est pas cher sur Amazon.
C'est le meilleur argument.
Même pas le SAV d'or, Adelin, tout simplement, c'est le SAV d'or que nous on attribue. C'est notre privilège à nous, voilà. Vous votez tout le reste. Mais nous, on se réserve un SAV d'or d'honneur, voilà.
Adelin n'a pas compris beaucoup de choses cette soirée. Enfin, il y a beaucoup de choses que je suis tout en
disant.
Beaucoup de choses qu'Adelin n'a pas compris cette année, cette soirée.
Et la bonne nouvelle, Adelin, c'est que le répondeur sera de retour en 2014. Alors, posez ta question.
Non, mais par exemple, un des trucs qu'Adelin n'a pas compris, c'est que le début des discours de chaque présentation de catégorie commençait par la même chose. Il a mis 15 catégories à comprendre ça.
Ah, c'est ça.
Mais il a juste remarqué sur important, alors que c'est... Enfin, bon.
Oui, bon, vous savez...
Nous, on sait.
Oui.
Ça aurait la peine de se casser le cul.
Ah, vas-y, Shinji.
Non, alors, Rush, pourquoi? Parce que, c'est quand même le premier film de fiction et des documentaires, mais c'est quand même le premier bon film de fiction sur la F1 et même sur le sport auto depuis un paquet d'années, parce que, même si ça parle de F1, les autres choix, on les a eus parmi les autres propositions cette année en SAV d'or. Là, Rush, ça y était pas. Donc, autant le donner, à autre chose. En
plus. Ça veut dire, on aurait fait une catégorie pour le meilleur film sur la F1 et voilà. On aurait mis Rush.
Sorti en 2013.
Mais il y aurait Rush, quoi. Oui, mais bon, au moins, il y aurait une catégorie.
Voilà. En plus, il s'avère que, malheureusement, et c'est aussi pour ça que le Blu-ray n'est pas très cher. C'est que il n'a même pas fait 350 000 entrées en France, alors
peut-être
que.
Des raisons.
Mais alors, étonnamment, il a de bonnes critiques. Il est extrêmement bien noté. Oui,
pas unanime.
Attends, si on parle de cinéma, bien sûr que c'est pas unanime. Hein.
La perfection n'est pas de ce monde.
Mais que ce soit sur des sites de référence, que ce soit Allociné, Metacritic, Rotten Tomatoes, IMDb, il est plutôt bien noté. Bon, ce n'est pas un échec global puisque il a rapporté 3 fois sa mise au box-office. Vous savez, les Américains, ils comptent en gros sous. En France, il a fait que 350 000 entrées, ce qui est bien dommage. Moi, je trouve que c'est un peu injuste. C'est un film qui aurait peut-être mérité un petit million d'entrées, on va dire. Ça aurait été bien. Et donc, je voulais marquer le coup pour célébrer quand même ce beau moment de cinéma pour les fans de F1 qu'on a eu.
J'aurais tendance à te rejoindre. Je suis très partagé, à vrai dire, entre deux des candidats. Mais c'est vrai que... Comment dire ? On va dire que... Un film sur la F1, c'est une aventure extrêmement casse-gueule. Globalement, un film sur le sport automobile, c'est extrêmement casse-gueule. D'autant plus de la part de quelqu'un qui n'a pas forcément un regard de fan sur la F1, même si, pour le coup, ça a peut-être servi aussi à rendre la chose bonne. Rush, c'est aussi le candidat de, comme tu le disais, le candidat de cette année, le candidat qu'on ne pourra pas récompenser l'année prochaine. Encore une fois, je suis très partagé avec Vettel, mais pour le coup, je donnerais, moi, ma préférence à Rush, qui a eu le mérite d'offrir à la Formule 1 un film de référence, pas parfait évidemment, hein, mais quel film est parfait, j'en connais très peu, et puis c'est aussi pour saluer un travail qui a été fait de manière sérieuse, quelque chose qui a été on a senti tous les efforts faits autour de ce film, alors que les moyens n'étaient pas colossaux pour un film qui pouvait s'apparenter à, enfin, pour une production d'un réalisateur aussi connu. Donc très sincèrement, au-delà des petits défauts qui font que on peut casser ce film effectivement du côté de la fiction, puisque la réalité n'est pas forcément dépeinte de manière exacte, à mon avis, c'est une façon aussi de saluer l'hommage fait à la F1 et donc d'offrir ce SAV d'honneur à un travail bien fait et un travail bien fait sur le sport qu'on aime. Voilà.
Moi, je pense que c'est vrai que quand tu vois les nommiers, tu me dis voilà, la saison de Vettel est exceptionnelle. Mais bon, il a déjà gagné plein de prix, Vettel.
C'est ce que j'allais rajouter.
Je me permets quand même de dire, il a gagné plein de prix. En tout cas, pendant la cérémonie, pas dans la cérémonie, c'est-à-dire, il a reçu aucune récompense entre guillemets favorable le concernant cette année. C'est-à-dire qu'on a un palmarès cette année où on aura retenu que le négatif de Vettel et strictement rien de ce qu'il a fait de positif cette saison.
Oui, mais en dehors des Saint Médor, il a eu plein de prix cette année.
Je rajouterai un truc au profit de Rush, c'est que, on a déjà eu cette discussion, tu le sais. Vettel ou Romain Grosjean, ils auront sans doute d'autres occasions d'avoir des Saint Médor. Non, mais Rush, si on lui en donne pas un là, il n'en aura jamais.
Et puis, est-ce que j'aurais quand même rappelé sur...
Moi, c'est cet argument de dire, ah bah oui, mais les autres pourront peut-être en avoir. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Aujourd'hui, le fait est que Sébastien Vettel, il fait une saison absolument extraordinaire. Il est 4 fois champion du monde. Il bat le record. Il fait 9 courses consécutives. On en a parlé un peu plus tôt. Il a eu quand même une réaction face au UE. Alors, peut-être qu'il peut pas avoir d'autres réactions, mais il a quand même une réaction très digne face au UE. Il a plutôt bien géré cette saison. Il a montré son caractère. Il a commis un impair peut-être aux yeux de certains en Malaisie, mais globalement, je trouve que j'aime bien le film Rush. Maintenant, on est quand même dans un palmarès qui a récompensé des trucs un peu décalés. Là, je trouve que ça serait bien dans ce palmarès qu'on apporte un côté de récompenser le travail d'un pilote, d'autant que dans les SAV d'or précédents, le SAV d'or d'honneur, l'un de ceux qu'on a donné, c'est en 2011, le SAV d'or d'honneur à Adrian Newey pour le récompenser de son génie sur la conception de la voiture. Adrian Newey, on aurait très bien pu partir aussi du raisonnement de dire mais il avait d'autres possibilités de le faire. Je pense que c'est à l'instant présent, il faut juger de ce qui a été le mieux cette année. Le film Rush était bien. Maintenant, est-ce que c'est juste parce qu'il a été là cette année qu'on doit lui donner un avantage par rapport à Vettel? Moi, je suis désolé, mais je n'arrive pas à me résigner à l'idée qu'on donne un SAV d'or au film qui a ses défauts et ses qualités, alors qu'on a sous les yeux quand même une performance de pilote qui a été relativement exceptionnelle cette saison.
Juste sur le Rush, je voudrais revenir, c'est effectivement un film de fiction qui est quand même basé sur des faits réels. Alors, il y a certains raccourcis, des choses un peu modifiées, mais c'est ce qui explique, pour répondre à une remarque de Berthe sur le chat, c'est ce qui explique qu'à la fin du film, on voit les vrais personnages, donc le vrai James Hunt et le vrai Niki Lauda. Alors, c'est vrai que Rush, voilà, c'est aussi le fait que il y a pas des films sur la F1. Effectivement, on en a pas vu beaucoup. Là, on en a un. Ça a été l'événement. Depuis qu'il est annoncé, on en parle, on s'intéresse. On a même évoqué. On le savait régulièrement quand on voyait une bande annonce. On a donné notre avis sur ce qu'on supputait de ce que le film pourrait être. On avait peur d'être déçu. Finalement, globalement, on peut pas l'être. Enfin, le film a effectivement ses défauts, ses qualités. Je pense qu'il a plus de qualités d'ailleurs que de défauts. Donc c'est vrai que de l'autre côté, Vettel a fait une saison exceptionnelle. C'est pas la première. C'est vrai que après son 4e titre, on a vraiment eu l'impression que il était libéré de quelque chose. Que à partir du moment après son 4e titre, le reste est purement du bonus. Maintenant, on verra comment ça se déroulera sur les autres prochaines saisons. Et sûrement que début 2014, il y aura plus cette forme de légèreté peut-être, puisqu'il y aura les enjeux d'un nouveau championnat. Pour défendre aussi un peu Grosjean, je vais parler des trois. C'est vrai qu'on a eu un Grosjean qui partait pas forcément avec les faveurs du pronostic. Sa saison 2012 a quand même été ça fait deux hauts et deux bas, avec des bas qui ont plus fait la une que les hauts. D'ailleurs, on l'a senti un peu sur les œufs en début de saison. Enfin, en Australie, clairement, il le dit après le départ, au premier virage, au deuxième virage, j'ai eu peur de faire un strike. Donc, il était. Je suis même pas sûr qu'il était forcément assuré dès le départ de finir la saison. Il a peut-être une période de probation. Ou, enfin...
Il me semble d'ailleurs qu'il a confié récemment que Lopez lui avait dit écoute, les cinq premières courses, si tu fais une erreur, tu dégages.
Oui, c'est c'est pas forcément le meilleur moyen de mettre un pilote en confiance. En plus, sa voiture lui convenait pas parfaitement. Il y avait un petit truc qui clochait. Il a fallu le temps pour mettre le doigt dessus. Et puis, voilà, il y a eu le partir du Grand Prix d'Allemagne. On a eu un tout autre Romain Grosjean qui a commencé à véritablement monter en puissance pour finir la fin de saison. Aujourd'hui, on peut imaginer Grosjean en leader de l'équipe. Il va encore falloir prouver qu'il peut effectivement le faire, mais avec sa montée en puissance, la faveur du fait que les relations entre Lotus et Raikkonen se sont dégradées, le départ de Raikkonen pour Ferrari, le fait que Raikkonen finisse pas la saison, on a senti clairement que le favori logique de Lotus devenait Grosjean. Donc maintenant, il va falloir qu'il confirme ça en 2014, en espérant qu'il a un matériel pour pouvoir continuer sur cette lancée-là. Fondamentalement, les trois mériteraient un SAV d'or. Après, il y a un peu... Enfin, on l'a vu dans les autres catégories, il y a un peu de feeling, un peu... Et c'est vrai que... Grosjean, il y a un encouragement. Vettel, il y a une saison, effectivement, Singapour, Abu Dhabi aussi, c'est une course exceptionnelle, mais il l'a mené de bout en bout. Il n'y a pas eu d'embûche sur le chemin, ça reste une très belle course. Et puis, il y a Rush qui...
Mais est-ce que vous pensez pas justement que c'est peut-être aussi l'occasion du SAV d'or d'honneur de corriger ce qui est le défaut, mais en même temps ce qu'on a voulu mettre aussi dans ces SAV d'or, c'est-à-dire le côté un peu décalé où on revient sur la saison, mais plus sur les faits marquants que sur les performances sportives. On a toujours dit que ça ne nous intéressait pas de faire on voulait ni faire les Gérard ni faire les César. On voulait pas faire une catégorie une cérémonie qui récompense les meilleures performances, le meilleur pilote, etc. avec les mêmes trucs chaque année. On voulait pas non plus devenir comme les Gérard où les catégories sont taillées sur mesure pour descendre quelqu'un ou pour l'humilier ou quoi que ce soit. On voulait faire quelque chose de décalé, un peu marrant, qui revienne sur les images fortes. Est-ce que le SAV d'or, c'est pas aussi un moyen de redevenir à un moment donné tout simplement des observateurs et des analystes de la Formule 1 et de remettre un petit peu la performance des pilotes et les performances sur le devant de la scène quand elles sont exceptionnelles, comme je pense cela a été le cas cette année de Sébastien Vettel. Ça vaut pas le coup. Est-ce que pour une fois, de se dire, on peut-être à un moment donné insérer un peu de sportif, là où on a quand même donné des SAV d'or, enfin des SAV d'or de Nord bien pourris, hein, on a donné à l'espoir. Donc voilà, à la limite, le donner à Roche, moi, ça me vexerait pas et ça me dérangerait pas. Ça serait pas immérité. Maintenant, je pense malgré tout que de cette année, se dire, le truc qu'on a vraiment envie d'honorer, c'est Roche. Je trouve que c'est un peu... Et c'est surtout, moi je reviens sur l'argument de Shinji, c'est surtout l'argument qui consiste à dire Roche, c'est cette année qu'on peut le récompenser et pas ailleurs. Et si dans 2-3 ans, on a un autre film qui vient, un biopic ou je sais pas quoi, et qui humilie Roche, qui est un vrai chef-d'œuvre, un film dans la lignée pour le coup de peut-être du Mans ou de Grand Prix par l'intensité, etc. Un Roche plus, et que bah là du coup on sera bien obligé de lui donner un SAV d'or. Et là du coup comme Sébastien Vettel, on aura l'occasion à un autre moment peut-être, faut l'espérer, de se dire voilà, on va récompenser un film qui a été au niveau. Récompenser Roche cette année, c'est aussi un peu se dire voilà, c'est un bon film sur la F1, ça faisait longtemps, on sait pas quand il y en aura d'autres, donc autant récompenser tout de suite. Bah voilà, moi j'ai envie de dire de rester dans la lignée du SAV d'or de l'espoir qu'on a donné il y a quelques années, se dire gardons l'espoir, il y aura peut-être un autre SAV d'or qu'on pourra donner au cinéma, ça se trouve il y aura peut-être une année, une catégorie complète qu'on pourra faire récompensant le meilleur film, et cette année revenons sur un peu de pragmatisme et du sport.
Mais je crois que je crois que surtout chacun sa conception du SAV d'or d'honneur, mais à mon sens l'intérêt du SAV d'or d'honneur, c'est aussi de souligner quelque chose qui peut-être ne va pas transparaître de lui-même. Moi, ce qui, et c'est comme ça que j'aborde le truc, parce que
dire que Vettel a fait une saison extraordinaire, dire que ce qu'a fait Vettel cette saison est incroyable, enfin, et donner un SAV d'or pour ça, c'est pas, je sais pas, je vois pas vraiment l'intérêt, enfin, je vois l'intérêt de le faire, ça serait pas immérité non plus. Mais je veux dire, à ce moment-là, non, je t'ai plus la coupe est pleine, il a, enfin, ce qu'il a fait est incroyable, ce qu'il a fait est incroyable, et je pense pas que c'est besoin d'un SAV d'or d'honneur pour être perçu. Le film Rush, c'est plus ponctuel, c'est plus comment dire, c'est quand même plus intimiste parce que mine de rien, ça reste quelque chose qui a pas eu un succès énorme par rapport à sa qualité intrinsèque. Donc moi, très sincèrement,
par rapport à, je vais revenir sur mon argument préféré, par rapport à la qualité intrinsèque que nous on lui accorde.
Oui oui, non mais d'accord.
Sur
oui,
la F1 qui fait 300, il a fait 350 000 entrées en France, on peut pas dire que ce soit un échec.
Non mais
nous on aurait voulu qu'il fasse 1 million, mais vous avez vu les films qui font 1 million au cinéma en ce moment, c'est pas des c'est des plutôt bons films. Donc 350 000, il y a certains films en France sur des sujets un peu plus généralistes ou un peu plus populaires qui seraient contents de les faire. Rush a malgré tout
beaucoup de films à 350 000 budget, ils sont pas contents.
Je dis pas beaucoup de films, mais il y a quand même des films qui seraient très contents à 350 000. Voilà, c'est faut pas comparer ça aux 20 millions qu'on fait les ch'tis. Et tu l'as dit toi-même, c'est quand même un film qui a eu des bonnes critiques, qui a déjà eu des bonnes décisions. Après, c'est clairement un film qui aura jamais une reconnaissance universelle, etc. Parce que c'est un film sur la F1, c'est un film de niche. Et pour le coup, je trouve que ça a quand même un petit côté un peu sans trop centré de récompenser nous, parce que personne n'a donné récompense, de récompenser un film sur la F1, parce que voilà, on récompense un film sur la F1, on est un podcast sur la F1, bah il faut bien lui donner une récompense, et comme personne ne lui en donnait une, bah nous on va lui en donner une. Voilà.
C'est aussi parce que le film est bon. Le film aurait été mauvais, il serait même pas nommé. Ouais. Mais voilà, enfin, c'est vrai que à part Grosjean que j'écarte parce que voilà, je pense qu'il a véritablement lui. Enfin, je pense qu'il a pas encore tout montré de ce qu'il peut faire. Là où Vettel a atteint effectivement le sommet de son art d'une certaine façon en deuxième partie de saison. Et Rush, c'est deux moments de la saison qui, enfin moi personnellement, me fait vibrer d'une façon ou d'une autre.
Ouais, c'est si tu veux, c'est-à-dire que je suis exactement dans la position de Fab, c'est-à-dire que c'est le sens qu'on donne à ce SAV d'or derrière. Autant je comprends que Fab ne mette pas forcément de sens, en tout cas dans son interprétation du SAV d'or, pour l'attribuer à Vettel, autant moi sincèrement, donner un SAV d'or, j'ai envie de dire presque en quelque sorte par défaut, de se dire voilà, c'est l'année où jamais on donne un SAV d'or à Roche, ben voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de film sur la F1. Je trouve que c'est un peu triste de donner un SAV d'or sur des arguments qui sont. Je préférerais qu'on dise ouais, le film est génial, ça a été le meilleur moment de l'année, etc. Donnons à SAV d'or qu'il y a un enthousiasme. Dans les arguments, j'ai pas l'impression que ce soit des arguments qui cherchent à vraiment dire que c'est une évidence. C'est plus des arguments qui cherchent à dire bah oui, faut le donner à lui, quoi.
Mais voilà, c'est une différence de conception. Ouais. Toi, tu veux l'évidence. Bon, moi, j'essaie de me projeter en me disant,
je dis pas
voilà,
forcément...
donnons-le peut-être à quelqu'un qui l'aurait pas eu, quoi.
Shinji, on a tous les deux participé à toute la désignation des SAV d'or d'honneur.
Oui, oui.
C'est pas de l'évidence. C'est de l'émotion. Dans les arguments, moi, ce qui me manque, c'est le sens. Moi, vous seriez là en train de me dire, on a adoré le film est génial, etc. Ça me gênerait pas. Le problème, c'est que les arguments que vous avancez derrière sont quand même des arguments. C'est le moment ou jamais, ou voilà. Enfin,
non, mais
je trouve que c'est un peu. C'est un peu triste pour un SAV d'or se dire, on a donné une récompense parce que en fait, c'est le moment ou jamais, on lui a donné une récompense. Tu sais, c'est pour le coup, on est clairement dans la logique des récompenses d'honneur qui sont données aux César ou aux Oscars. C'est voilà, on lui donne une récompense parce que bon bah, il va bientôt mourir. Alors, il faut lui donner une récompense.
Non, mais
ne dis pas ça.
Très sincèrement, si on doit placer ça sur le compte des émotions, moi. Vettel, en début de saison, j'ai démarré avec un a priori plutôt négatif sur Vettel. Cette saison, c'est la saison où il m'a fait changer d'avis parce que il m'a bluffé. Franchement, il m'a bluffé sur certaines courses en Allemagne, à Singapour, même au Japon, dans des styles très différents à chaque fois. Il m'a bluffé. Après, très sincèrement, j'ai pas vibré autant devant une victoire de Vettel, aussi belle soit-elle, aussi impressionnante soit-elle, que dans une salle de cinéma en ayant le son, les images de Rush, la manière dont c'était filmé. je veux pas, c'est vraiment mon idée, c'est pas de dire que Vettel ne fait pas une bonne publicité à la F1, c'est pas du tout ça, mais pour l'amateur, pour le néophyte, pour la personne qui ne suit pas beaucoup la F1, et même d'ailleurs, je veux dire pour le passionné, parce que moi je suis un passionné et c'est pas la question, mais j'ai émotionnellement une des choses de mon année en matière de culture et en matière de, allez, j'englobe le sport dedans, c'est Rush, c'est quelque chose qui m'a, je vais rarement voir les films deux fois parce que je trouve que c'est pas, y a pas très peu d'intérêt pour la plupart des films. J'y suis allé deux fois avec plaisir, avec à chaque fois les mêmes sensations. C'est une histoire qu'on connaît, c'est une histoire qu'on nous raconte une autre fois, c'est une histoire qui nous, moi j'ai été saisi, j'ai beau connaître l'histoire, j'ai été saisi par ce film. J'ai été saisi par la qualité, la manière dont ça avait été fait. Vettel, encore une fois, moi, ce qu'il a fait cette saison est impressionnant. Il est rentré dans la catégorie des pilotes que j'aime suivre maintenant. Mais si c'est sur le plan des émotions, c'est Rush plus que Vettel. Voilà.
C'est ça, enfin moi quand je dis que je suis entre les deux, c'est difficile de choisir, c'est parce que là où je suis emmerdé, c'est que tous les deux m'ont fait vivre quelque chose pendant la saison. D'une façon ou d'une autre, effectivement, enfin Vettel, t'as une admiration pas sans borne, mais tu peux pas ne pas être admiratif à partir du moment où t'es fan de F1, que t'aimes pas le bonhomme. Voilà, moi en début de saison, le Multi-21, je l'ai pas aimé. Et voilà, là aussi, on a finalement deux candidats qui ont des qualités. Voilà, on a Vettel qui a dominé la deuxième partie de saison, on a Rush qui, voilà, c'est vrai qu'on connaît l'histoire, qu'on sait quand on en arrive à la scène du Nürburgring, on sait ce qui va se passer, on sait ce qu'on va voir. Mais la façon dont c'est montré, sans voyeurisme, sans vouloir en faire forcément des tonnes, rend le truc aussi saisissant d'une certaine façon. Tu restes quand même, ça arrive à te prendre quand même un peu dans les tripes. Et bah, y a des défauts aussi, il y a des choses qui sont pas exactes, des choses qui sont pas racontées, qui auraient mérité peut-être de l'être pour que ce soit encore un peu plus profond. Mais voilà, et c'est... Donc on a deux... Enfin voilà, c'est ça, on a vraiment deux candidats qui, pour moi, mériteraient quasiment autant l'un que l'autre pour des raisons différentes. Mais on est face à deux choses, enfin...
Et il en pense quoi, Gus Gus ?
Que dalle.
Alors moi, ça fait un quart d'heure que je vous écoute, et...
Sera mon auditeur.
Non, mais quasiment, oui, parce que voilà, moi je suis pas cinéphile à l'origine. Pour moi, il y a une dimension dans ce SAV d'ordre d'honneur qui est de marquer l'histoire de la F1. Alors donc moi je retiendrais plutôt Sébastien Vettel qui pour moi cette année a changé de dimension, et même s'il était déjà triple champion du monde, ce qui est déjà une performance exceptionnelle, il y a déjà très peu de triple champion du monde, encore moins de quadruple, il a changé de dimension, il a fait une saison éclatante, il a tout balayé sur son passage, donc c'est vraiment une saison qui marquera l'histoire, donc c'est plus ça que j'ai envie de récompenser qu'un film, aussi bon soit-il et aussi fort a-t-il été, pour moi qui ne suis pas cinéphile et qui mais qui est grandement apprécié. Voilà, moi c'est plus Rush, c'est un peu un à côté de la F1 que dans la F1, même si ça part de la F1, c'est en plus, quoi. C'est pas à l'intérieur.
Ouais, donc ça va être vraiment tranché en fait, c'est ça, c'est cool.
Donc pour maman, mesdames et messieurs, nous avons deux voix pour Vettel et deux voix pour Rush et zéro pour Grosjean, mais bon, on va quand même vous avouer, on a gardé Grosjean parce qu'on voulait quand même en parler et le signaler parce que tu l'as dit Ben, ce qu'a fait Grosjean cette année c'est assez son parcours, sa progression, sa remise en question, c'est parfaitement à l'image, ça avait été l'un des pilotes, l'une des personnalités qui se cachait derrière le SAV d'or d'honneur à l'espoir qu'on avait donné, c'était voilà ce pilote qui se remet en cause, qui a su se reconstruire pour devenir aussi bon voire meilleur que ce qu'on attend de lui, qui a su déjouer les pronostics. C'est pour moi c'est l'une des personnalités de la F1 de l'année. Maintenant effectivement si j'avais à choisir, je mettrais facilement Rush devant et surtout Vettel. Mais donc oui, c'est à toi Ben de choisir.
C'est toi qui vas nous départager. Non, je vais rester sur la première idée que j'avais, c'est-à-dire que je vais quand on lit les
voilà voilà attends avant que tu dises
on double.
Puisque...
On peut pas les comparer, finalement.
Finalement, c'est deux choses très différentes.
Et voilà, et je crois que quand on peut pas comparer, on ne départage pas, très sincèrement. Qu'en pensez-vous?
Ouais.
C'est con, j'avais un beau justificatif, mais bon.
Mais vas-y, mais vas-y, donne
vas-y.
Non, mais enfin, bon ici, quand, par rapport à notre débat, c'est, on lit sur le forum, sur le chat, qui, on sent qu'on est tous autour de la table passionnés. Et, moi, oui, dans ma...
Moi je regarde pas la F1,
mais non, mais voilà, moi dans ma vie de passionné de Formule 1, l'expérience Rush est quelque chose que j'avais pas encore eu la chance de connaître. Parce qu'effectivement, des films sur la F1, il n'y en a pas beaucoup. Des bons films, encore moins. Enfin, voilà. Et donc, pour ça, moi, je mettrais d'une courte tête ma préférence à Rush.
Donc il y a 3 préférences à Roche, 2 préférences à Vettel. Moi je me range à la majorité.
Maintenant moi je tends la main.
Oui.
En disant après tout.
Mais il n'y a rien de pire. Que, c'est pareil. C'est-à-dire, j'ai envie
ouais,
de dire.
Non mais là on est très partagé, c'est pour ça.
Oui, on est très partagé, mais en même temps il n'y a rien de. Enfin comme vous l'avez dit, c'est pas comparable. On peut pas comparer les deux. Donc les mettre tous les deux sous une même étiquette, c'est pour moi c'est difficile. C'est à un moment donné il faut qu'on choisisse, parce que c'est ne pas choisir, c'est.
Non mais voilà, d'accord.
Moi, c'est refuser de mourir. Voilà. Non, c'est pas ça la
voilà,
citation.
Voilà, c'est je préfère me dire voilà, au moins il y aura un autre but et je me dis à un moment donné. Ça sera aussi l'occasion de dire aux gens, vous voyez, nous aussi on n'a pas voté, mais on a hésité à donner un SAV d'honneur à Vettel, mais faut aussi, moi sincèrement, ce que je veux envoyer comme message, c'est que je pense qu'on n'aurait pas ce débat là, on n'aurait pas cette insistance là si la performance de Vettel avait été un peu plus reconnue. Et moi je le dis sincèrement, dans les résultats de ce soir, je suis quand même très déçu de voir qu'il y a des catégories où Vettel aurait pu mieux figurer et où je trouve qu'il a été très vite écarté. J'espère que là on ne donnera pas, mais j'espère que ça incitera les gens à aussi juger un peu plus Vettel sur sa valeur et à lui rendre le mérite qui est le sien, qui est d'être aujourd'hui un pilote référence en Formule 1. Enfin, je vais me faire pleurer. Donc le lauréat du SAV d'or des 7 cornichons qui anime un podcast sur la Formule 1, parce que vont se joindre à nous également par la pensée Elder et Jennifer qui ne pouvaient pas participer à cette émission ce soir.
Qui aurait très probablement défendu Sébastien Vettel.
Je sincèrement je pense. Je pense.
Bon, Elder, voilà, je suis pas sûr que sa femme l'aurait laissé défendre Vettel. Hein.
Je pense qu'on aurait dû mettre Weber dans la liste. Et donc le lauréat est, avec l'accord unanime de tous,
Rush.
Bravo, Rush.
Bravo.
Y a pas de petit machin?
Ah oui.
Bah non.
Bah non, c'est un petit.
Ah bah non. C'est le SAV d'honneur. La voix off est partie. C'est sa pause.
Une récompense méritée.
Oui, c'est ça.
C'est un beau vainqueur car il aura eu un bel adversaire.
C'est vrai.
Ah, quel adversaire aussi. Et donc, messieurs, chers auditeurs, il est l'heure de dévoiler la dernière catégorie, l'ultime catégorie, l'ultime récompense de cette saison formidable, de clore ce chapitre que fut 2013. Putain, c'est long à charger la page Mozilla. Et donc, je te transmets les rênes, Fab, pour cette ultime catégorie.
Merci. Vous savez, Paco Rabanne, c'est important. Alors non, je ne vais pas vous parler du Paco Rabanne fantasque créateur de mode espagnol qui emploie avec audace toutes les formes de métaux au service du style, de l'élégance et de l'anorexie. Non, je ne vais pas vous parler du Paco Rabanne créateur de parfums et de sous-produits destinés à capitaliser sur son nom une manne financière gigantesque. Non, je ne vais pas non plus vous parler de Paco Rabanne l'extra-lucide, réincarné plusieurs fois dans plusieurs vies, l'apôtre de la chute que l'on attend toujours de la station Mir sur Paris. Non, je ne vais pas vous parler de ce Paco Rabanne-là, et d'ailleurs, je ne vais pas vous parler de Paco Rabanne. Les nommés pour le SAV d'or du transfert, que même si Paco Rabanne nous l'avait annoncé, on ne l'aurait pas vu venir, récompensant le transfert le plus étonnant de la saison 2013, sont...
La montée en grade de Daniil Kvyat chez Toro Rosso, le retour de Nico Hülkenberg chez Force India, le transfert d'Adrian Sutil chez Sauber, le retour de Kimi Raikkonen chez Ferrari, la titularisation de Pastor Maldonado chez Lotus, la promotion de Kevin Magnussen chez McLaren.
Et le vainqueur du SAV d'or du transfert, que même si Paco Rabanne nous l'avait annoncé, on n'aurait pas vraiment vu venir, est le retour de Kimi Raikkonen chez Ferrari.
C'est le
troisième SAV d'or
de la carrière de
Kimi Raikkonen.
Un prix qui salue une arrivée chez
Ferrari.
Qui en a surpris plus d'un. Commencez par l'auteur de ces pastilles qui tente bassement de vous faire croire que tout cela a été préparé à l'avance, avec une réussite très limitée.
Oh, là je trouve un peu dur quand même, personne n'y a vu que du feu, enfin c'est
bien sûr. En tout cas, une récompense méritée.
J'aime bien surtout ce petit foirage au début.
Oui.
Merde, la bande est partie.
Mais en plus, je me suis dit, il faudrait que tu mettes quelque chose de plus long au début pour que tu rentres dedans.
Ah, pareil l'année prochaine. Exactement pareil.
Parce que ça a été l'une des questions, c'est alors attendez, si on fait une catégorie en live, il va falloir faire plusieurs trucs pour chaque vainqueur potentiel.
Non.
Et en fait non, voilà, je dis magnifique, enfin bravo.
Merci.
Tu es officiellement reconduit pour l'année prochaine, là c'est sûr.
C'est vrai.
Je sais pas qui est cette voix off, mais je la veux dans toutes les émissions.
Donc, il me reconnaît avec 58% des voix. Vous avez été 24 à voter pendant ce live. C'est le SAV d'or qui a reçu le moins de votes. Hein. mais c'est un peu
légitime,
le SAV d'or du jury. Hein. Ces dernières années, on avait le SAV d'or du jury. Là, comme c'est nous qui avons fait le palmarès et tout. Enfin, voilà. Donc, c'était l'occasion de former un jury des auditeurs du live. Et ça vous incite, vous, qui ne nous écoutez pas en live, à venir nous rejoindre en live, participer à l'émission en live sur savf1.fr/live. Voilà.
On va découvrir nos problèmes techniques et tout ce qui fait le sel d'un direct.
Et donc, on va quand même mentionner les autres résultats. Alors, Kevin Magnussen qui a fait 25% des voix avec 6 votes.
Ouais.
Nico Hülkenberg avec 2 votes a fait 8% des voix. Ex aequo, nous avons Dani Kvyat et Pastor Maldonado avec 1 voix. Et enfin, le transfert devant tout le monde, on n'a rien à foutre. C'est celui d'Adrien Tudil chez Sauber. Voilà.
Bravo!
Qui réalise l'exploit d'avoir 1% des voix avec 0 vote. C'est quand même incroyable.
1% à un moment donné. Alors que c'est pas fondamentalement le transfert le moins étonnant de la liste. A priori, enfin, même Kevin Magnussen, on l'avait envisagé à un moment donné, mais McLaren
justement,
avait été écarté.
C'est le moins étonnant s'il a eu le moins de
votes. Non mais c'est ça, Magnussen, on l'avait évoqué, ça a vite été écarté par Martin Whitmarsh, donc on en a plus parlé. Finalement, c'est un peu aussi une petite surprise. Voilà, enfin, il y avait Daniil Kvyat, finalement, était aussi une surprise, parce que lui, pour le coup, on l'a vu arriver que
quand il a été annoncé. C'est moi qui ai voté pour lui. Parce que là, quand même, le voir venir, ce gars-là, fallait être bon.
Mais disons qu'il y a une certaine logique, il est quand même dans la filière Red Bull, c'est pareil pour Manu, il était dans la filière, c'est des gars, fondamentalement, qui sont quand même dans les tuyaux, moi, vraiment,
il serait pas arrivé cette année, il serait arrivé les années suivantes.
Voilà. La vraie surprise, c'est qu'on a une Hülkenberg qui retourne chez Force India, c'est une double surprise. Au sens où d'abord on attend pas forcément à revenir chez Force India, et surtout c'est la sensation d'une stagnation au terme d'une saison où quand même le pilote c'est j'ai pas dire révélé mais a confirmé qu'il avait un très très bon potentiel. Donc la vraie surprise, elle est là après le retour de Kimi Raikkonen. La victoire elle est incontestable, elle est parfaitement légitime, parce que
c'est une surprise, on s'attendait pas à ce qu'il revienne chez Ferrari.
Il y a un passif, quoi, déjà le fait qu'il se soit un peu fait mettre dehors pour laisser place à l'arrivée d'Alonso à grands coups de millions de dollars. Voilà, on se disait bon, il digérera pas ça, il aura un a priori à retourner chez Ferrari parce que il sait ce qu'ils sont capables de faire s'il y a par exemple un Vettel veut revenir, quoi.
Sans parler de vis-à-vis d'Alonso, je veux dire, on se dit non, Alonso il acceptera jamais qu'il m'y arrive avec lui. Et si,
a-t-il vraiment eu le choix?
Ah non, voilà, c'est ça.
Bah, si on l'entend, oui, c'est lui qui a choisi.
Oui, mais c'est lui de ça. C'est-à-dire que quand tu te rappelles ce que disait Alonso, c'était, oui, bah, ils m'ont demandé, j'aurais dit que Miracolène, c'était le meilleur choix. Ouais, bien sûr, c'est ça, effectivement. Ouais,
bien sûr. Mais Felipe va nous manquer, certainement, tout ça, mais oui. Et la marmotte, elle met le.
Ils ont mis à jour le site de la Scuderia Ferrari. Bon, il n'y a rien, il y a juste une page blanche et il y a sa photo en tenue Ferrari.
Mais c'est lui qui a écrit sa bio, c'est pour ça qu'il n'y a rien.
Oh, le fan de Kimi qui... Oh, c'est pas honnête, ça. Que tu taques ton propre pilote, je trouve ça mesquin.
Bah non, mais c'est aussi pour ça qu'on aime Raikkonen. C'est parce que, voilà,
Vas-y, raccroche-toi aux branches.
Bah non, bref.
Mais non, mais voilà, t'es un traître à la patrie, c'est pas rien, voilà, c'est tout. Honte à toi.
Non, parce que moi aussi, je l'ai défendu à Monaco.
Ah bon?
Ben
bah, oui. On est fan, hein. Je pensais que vous étiez quand même plus sensé que ça. Alors qu'on sait très bien que c'est lui qui ferme la porte. Enfin bon, c'est pas grave.
Bah, en fait, je suis quand même, je sais pas, partagé. Parce que le retour de, oui, c'est là, c'est le passif. Je pense que c'est sûr que ça joue sur le passif parce que le.
On t'aurait dit mais Kimi Räikkönen va chez Ferrari l'an prochain en début d'année.
Non, bah c'est sûr. Oui, mais comme beaucoup de choses, même
à Spa. Enfin, c'est là aussi où on a commencé à évoquer sérieusement que Red Bull était mort. La piste Ferrari est sortie et franchement, pas grand monde y croyait quoi. Donc c'est aussi ça, puis il y a le passif, et puis il y a ce que ça implique par rapport à la relation Alonso-Ferrari qui s'est aussi qui a aussi montré des signes de dégradation tout au long de la saison. C'est, je pense que c'est tout ça, et puis parce que le duo Alonso-Raikkonen chez Ferrari, voilà, ça fait quand même c'est quand même un duo qui a de la gueule quoi.
Et j'ai même envie de dire, il y a la surprise du départ de Kimi Räikkönen de chez Lotus, une écurie dont on avait clairement l'impression que il se sentait bien, que c'était enfin l'écurie qui avait su trouver l'équilibre qui convenait bien et développer l'environnement qui convenait bien autour de Räikkönen. C'est vrai que moi Räikkönen qui est un pilote que je peux critiquer mais qui est aussi un pilote que j'apprécie. Je critique l'homme et j'apprécie le pilote. C'est quand même en termes de caractère, il a montré des choses, une détermination, une envie, même ne serait-ce que par ses pics à l'égard de Grosjean, il a montré quelque chose de nouveau chez Lotus. Donc c'est vrai que c'était étonnant de ne serait-ce qu'envisager, même si on se doutait bien que Lotus avait pas forcément les moyens, notamment techniques, pour pouvoir permettre à Räikkönen de s'exprimer. Mais on pensait, moi personnellement, je pensais pas que Kimi Räikkönen quitterait Lotus pour une question de pognon. C'est déjà la surprise, elle vient aussi de ça et de la violence même de la rupture entre les deux qui a été quand même très violente et très brutale sur la fin de saison. Mais c'est donc Kimi le grand vainqueur de cette cérémonie des SAV d'or puisqu'il a trois SAV d'or ce soir, si je me trompe pas.
Qu'est-ce qu'il a mis Fab dans le trou dans le blanc?
Il est lié à 3 SAV d'or, c'est le troisième de sa carrière, mais il est lié à 3 SAV d'or ce soir, effectivement.
Bravo Kimi, tu es magique.
Qui avait d'ailleurs honteusement reçu un SAV d'or d'honneur en 2009.
Pourquoi?
Hein?
On lui avait donné un SAV d'or en 2009.
Oui.
Oh la vache, pourquoi?
Et ça vient critiquer Rush.
Bah, parce qu'il s'en allait, voilà.
Parce qu'il s'en allait.
Voilà.
On devrait lui retirer et donner le SAV d'or à...
Oui, bon, bah, il reviendra plus jamais.
SAV d'or 2009, bah, Vettel.
Moi, je dis Vettel. Il a fait une saison 2009 exceptionnelle.
Faites gaffe, vous aurez l'air malin si Ruben Barrichello revient.
Mais nous, c'était sûr.
Je m'en rappelle, hein. C'était, ouais, on le donne, mais putain.
Mais non, mais souviens-toi. Souviens-toi de la conviction de l'homme qui s'était élevé. Et qui avait dit non, 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 non.
Souviens-toi, tu avais.
Oui.
Et donc, sur cet énième fail dans cette cérémonie, je pense, monsieur, qu'il est temps que nous mettions un terme à cette saison 2013 qui fut riche en émotions, en sensations, à la fois sur la piste et en dehors, dans les salles de cinéma, partout. Voilà. Et on espère vraiment que la saison 2014 sera aussi riche, si ce n'est plus riche.
Sera pleine de panache.
Ouais, on va peut-être éviter qu'il y ait trop de panache. Mais donc évidemment, on vous donne rendez-vous en 2014 pour les SAV d'or 2014. Et 2014, on vous rappelle que c'est déjà maintenant, tout de suite là. C'est voilà, on est en 2014. Donc on vous renouvelle tous nos vœux de bonne année à vous ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. On vous souhaite évidemment une excellente saison de Formule 1, une saison de Formule 1 que vous pourrez suivre en notre compagnie, un peu au fil de l'actualité et au fil des grands prix, comme vous avez déjà pu l'expérimenter depuis le début du mois de décembre. Une saison que vous pourrez vivre en exclusivité avec nous sur le site savf1.fr. Voilà, vous nous trouverez aussi sur nos partenaires habituels, hein, pour ne pas
c'est
les
bon,
citer.
On est en train de faire la peinture et tout.
Bah, ouais. On vous a choisi un petit crépi taupe. On va vous faire des bandes de toutes les couleurs.
Ça va m'aroufler dur.
On va donc évidemment on cite nos partenaires qu'on remercie au passage, nos partenaires que sont Pod Radio sur le canal Alpha, vous nous retrouverez régulièrement, Podcast France, il faut aller voter dessus pour nous donner les 5 étoiles. On peut citer également tous les sites globalement qui reprennent nos émissions, qui en parlent, qui en parlent à leurs copains ou je sais pas quoi, n'importe qui, tous ceux qui parlent du SAV, on les remercie. On est également pour nous écouter sur iTunes, sur le site du SAV savf1.fr. Et on va profiter de cette émission pour remercier chaleureusement toute l'équipe de Fan F1, les lecteurs de Fan F1, puisque ce sera en l'état notre, pour le moment, notre dernière émission diffusée sur le site de fanf1.com. Une aventure qui prend fin, mais on espère qu'une nouvelle prendra bientôt racine. On en profite donc pour remercier le site qui nous a hébergé pendant 3 ans, 3 années riches, 3 années sans doute au bout desquelles on ne serait pas allé sans Fan F1 et surtout sans les gens qu'on y a côtoyés au quotidien. Et pour cela, je pense que Shinji se joindra à moi.
Se joindra plutôt, oui. Oui,
on va pas se... Oui, bon. Oh, ça serait pas la première fois, je dis, c'est très bien.
ça sera pas coupé.
Mais après, c'est moi qui suis vulgaire ce soir.
Moi, je suis subtilement vulgaire. Et toi, tu commences en disant connasse. Je pense que Shinji se joindra à moi pour remercier toute l'équipe qui nous entoure. Remercier Gus Gus, Fab, Ben, Jennifer et Elder. Jennifer et Elder qui ont été un peu moins présents cette saison, mais ils s'en excusent régulièrement de dire « Ah, on n'est pas présent, on est bon. » Voilà, mais on comprend parfaitement. Et puis évidemment,
c'est chiant la vie d'avoir des trucs à faire, c'est con.
Voilà, alors que nous on en a 3 là qui n'ont rien à foutre de leur journée.
Dixit, les deux, ou c'est pareil.
Vraiment, merci à vous. Merci à vous de votre engagement dans le SAV et de votre participation, ou de la même de nos attentes. Voilà, on dit toujours qu'on a pris des chroniqueurs juste pour venir aux émissions et on assurait le service après-vente du service après-vente. Et au fur et à mesure des années et des mois, surtout cette année, vous avez fait plus qu'assurer la chronique. Vous avez fait du montage, animé les émissions. Voilà, aujourd'hui, on pourrait vous confier les clés du SAV sans problème, et on vous en remercie.
Mais puisque c'est si gentiment proposé, on va les prendre. Hein,
tu noteras que j'ai utilisé le conditionnel. Et il y a une liste de conditions qui est assez importante. Bon. Et évidemment, on ne saurait conclure cette saison 2013 sans vous remercier, vous, auditeurs, qui avez participé à tous nos petits délires. On a fait cette année plus d'une quarantaine, on n'est pas loin de 45 émissions. Voilà, donc on vous remercie de nous suivre, on vous remercie de nous écouter, de nous être fidèles, on vous remercie de nous envoyer vos messages, des messages, des questions, et puis des messages pour le coup vraiment pour nous remercier de notre travail, et puis on vous remercie de nous suivre par avance en 2014, et puis voilà, le mot de la fin. Shinji, je te propose de finir sur le mot de la fin.
Oh non.
Non mais juste Shinji. Ah. Shinji, je te laisse le mot de la fin.
Courage, Michael.